Selection. Merci Joe, espèce de beau gosse pour le raid. On va aller acheter des meubles avec Joe. Message à Maxime dans le chat qui est en train de marcher en direction de la fac. Sois prudent quand même, les passages cloutés, tout ça. À moins que tu marches pas. Peut-être que t'es genre en voiture avec chauffeur, un truc comme ça. Ça va ? Ok, heureux de vous retrouver. On est mardi. Petite revue de presse. Et il y en aura une aussi demain matin, juste avant le deuxième numéro d'MVP. Venez demain midi. C'est ma grosse émission de la rentrée. C'est de la régalade. Hein, on a fait le premier numéro il y a 15 jours, une émission qui parle de l'emploi, du travail, de l'orientation, de la formation, de la réorientation, de tous les secteurs possibles et imaginables où on peut taffer pour ceux qui cherchent des idées pour leur futur ou pour aujourd'hui s'ils veulent changer de voie. Master en biologie marine pour moi est pas mal ça, Guilhem. Pas mal. En pleine inscription pédagogique, je stresse. Bah justement, c'est une émission qui est un peu faite pour déstresser. Voilà. L'idée, c'est un peu que à chacun de trouver sa voie, il n'y a pas de voie topissime. On peut trouver le plaisir, l'équilibre, la passion, voire juste un salaire si c'est tout ce qu'on recherche parce que l'essentiel est ailleurs. Dans plein de secteurs différents, c'est un peu la philosophie de MVP, ma vie pro. Petit clin d'œil aussi à mon niveau sur Valo, bien sûr, parce que je suis très souvent MVP de ma game, jamais en fait. Voilà. Ah si, parfois. Ouais, faut remarquer que je suis en fer. Hier, j'ai eu un tournage secret pour YouTube avec d'autres créateurs de contenu et créatrices de contenu. Et à un moment, il y a un garçon hyper sympa qui était là et qui me dit... Mais du coup, c'est quoi ton rank sur Valo, toi qui es passionné de ce jeu? Faire. Mais ça fait 9 mois que tu joues quand même. Ouais. Voilà. Sinon, t'as vu la météo, c'est en train de se rafraîchir. Hein. Le fond de l'air est un peu frais. Hein. Voilà. C'était totalement gênant. Merci Derodel pour le 6e mois. Merci l'Extratovic pour le 27e mois. Merci encore à Diana, Hardrock Gamer, Alexia et Ludwig et Valsnoop qui ont sub dès les premières minutes de ce stream. Demain, j'ai un changement dans mon travail. Ok. Tout à l'heure. Je crois que c'est la dernière chance pour me rendre compte que j'aime encore mon métier. C'est assez stressant. Aïe. Ouais. Le taf, ça peut être une source d'équilibre et d'inspiration. Ça peut être aussi une source de stress. Je cherche un poste en dev front-end. Si jamais, trop cool, tes lives, Samy, tu régales. C'est quoi dev front? Donc, c'est développeur front-end. Oh, putain, je suis nul. Tu m'expliques la minouze? Dis-moi en plus, le tournage d'hier, c'était par rapport à un défilé, demande C2M Live. Ah non, c'est un tournage secret, je peux pas dire. J'ai très mal au dos, ça m'a une solution. Moi j'ai eu ça, je suis allé voir un kiné pour la première fois de ma vie. Je vais voir un kiné, puis c'est passé là. C'est passé. quant à l'émission pour l'orientation, c'est sur le travail, tu vois, c'est sur le... C'est l'orientation. Enfin, oui, c'est demain. C'est MVP, 12h. Voilà. Et demain, il y aura une revue de presse. Voilà. Puisqu'on fait ça dans un beau studio, il y a 3 chroniqueurs, il y a 3 invités. C'est waouh l'émission. Mais juste avant, je fais une revue de presse et on enchaîne. Voilà. Développeur de la partie visible des sites web ou appli. Ah, ok, merci Moulbit. Tout ce qui est visuel. Ça cherche du côté de Maximo de la Vego, une alternance dev web sur Toulouse, si jamais. Ok. Matt, des tutos pour monter sur Valo. Non, c'est vous les tutos, Jarvis. C'est le chat qui me coach, moi. développeur qui fait l'interface utilisateur et pas le code de fond. Dev front end. Ah, trop bien. Ah, l'interface, le visuel, tout ça. Ah, ok. J'ai encore appris un truc. Donc, vous savez tout ça, vous. C'est dingue ça. Perso, j'aime mon taf, mais je déteste l'ambiance au taf. Faut bien remplir son frigo la fin du mois. C'est que Alina. Ouais, ça arrive souvent, ça. Moi, le conseil que je donne, c'est que si en plus, t'aimes ton taf, mais pas l'ambiance au taf, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Le conseil que je donne, c'est de trouver un endroit où tu pourras avoir les deux. Le bon boulot et la bonne ambiance. Et ça existe. Pas des gens normaux, humains, qui font attention à l'autre dans mon entreprise. Il y en a. Faut les trouver. Tu quittes pas ton job. Tu cherches parallèlement, tranquillou. Tu vois, tu fais pas le foufou. Hein, la petite mission recherche. Ouais, d'accord, ok. Puis quand tu trouves, bim, c'est parti. C'est la fête. Tu faisais des courses sans aller voir le kiné. Ouais, Raphaël, ouais, j'ai fait beaucoup de courses à pied, mais j'ai beaucoup bossé avec un podologue et puis avec d'autres spécialistes. Voilà. Donc, puisque j'avais du coup le course à pied, ça tape un peu dans le dos, mais du coup j'avais d'autres trucs, voilà. Mais là ça l'a plutôt fait, là j'ai le dos. Et demain soir, qu'est-ce qu'il y a demain soir, Julo? Quelle journée demain? Non, j'ai rien demain soir. Non, demain, non, y a rien demain soir. Julien, un truc demain soir? J'ai un gros truc demain soir, j'ai encore raté. Demain soir, mercredi. J'ai un truc mercredi. Hein? Oh merde, il y a tous les modos qui nous disent que j'ai un truc mercredi. J'ai quoi mercredi? Hein? Avec Joe? Mais non. Et Pépa? Mais non. Ben non, j'ai rien. J'ai un truc. Qu'est-ce que j'ai?
Agenda.
Mais non, je vous troll pas. Ah non, j'ai rien, je vous confirme que j'ai rien. Ah non, j'ai rien du tout, j'ai un truc jeudi soir. J'ai vendredi soir, j'ai ma compétition Apex. Samedi, je suis à Lyon pour un tournage. Et dimanche soir, c'est la rentrée de Saint-Pé, mais demain soir, j'ai rien. Vous étiez sur le stream de Joe? Je pense que... Ah ouais, non. On va acheter des meubles avec Joe. On va dans un magasin pour acheter des meubles. En fait, il a fait le mystérieux avec ça. Vous avez cru qu'on avait un gros event à Bercy où on va remplir Bercy et on va faire un stream de ouf. On va faire top un monde, c'est ça? Enfin, non, on va littéralement dans un magasin de meubles, en fait. Et en fait, c'est quoi? Joe a fait le mystérieux et du coup, vous êtes monté la tête, vous êtes monté le bourrichon? Non mais en vrai? Non mais vous êtes fait avoir comme des bleus, quoi. C'est de ça dont vous parlez? Attends, c'est-à-dire que après MVP demain, en fin d'après-midi, avec... Il y a un leak sur le planning de Pépin, mais il n'y a rien demain. Putain, vous me faites flipper. Attends, je vais envoyer un texto à Joe. On va grimper l'Everest? Oh putain, je cours de rien. Joe, virgule, il y a tous les modos qui disent que j'ai un truc demain soir avec toi et Pépin, virgule, que c'est marqué sur le planning de Pépin. Point. Tu sais de quoi il s'agit, point interrogation. Là, je suis un peu perdu, 3 points de suspension. Ok. Joe, déjà, on va corriger Joe parce qu'il a écrit n'importe comment. Ce truc dit, il y a tous les mots, non pas les mots, les modos. Oh, il est con ce truc. J'ai un truc demain soir avec Pépin et que c'est marqué sur le planning de Pépin. Tu sais de quoi il s'agit? Voilà, c'est bon. Let's go. Ouais, je vous en dire plus. Demain, MVP, c'est donc à 12h. C'est les conséquences de l'IA sur le monde du travail, de l'emploi, tout ça. On troll pas, il y a un truc sur le planning de Pépin? Bah, vous savez quoi, on va y aller, let's go. Allez, alors ça s'appelle Google. Ok. Ça s'appelle, on va faire Twitch. Pas Twitter, surtout pas. Voilà, le réseau social du diable. Pépipin. Parce que le nom de sa chaîne, c'est Pépipin. Let's go. Allez. On va sur le programme, le planning. Let's go. Mardi, 17h. C'est aujourd'hui. Mercredi, rien. En fait, vous foutez de ma gueule, en fait. Ça s'appelle du fact-checking, ça. Il y a l'info chat, l'info internet, puis il y a l'info. Alors c'est où l'info dans le... dans le planning de Pépin. Vous foutez de ma gueule, en fait. Pas le planning Twitch, le planning qui est diffusé sur les réseaux sociaux et son Discord. Va dans l'onglet chat. Source AFP. C'est un stream secret. C'est tellement secret que je suis pas au courant, quoi. Bon, les gars, arrête. Faut vérifier les infos, là. Attendez. Salut Sam, ma femme a joué avec toi hier, elle s'en remet toujours pas. Ah ouais, j'ai fait un petit stream Valo hier après-midi avec les modos et avec les viewers, on a fait des deathmatchs, on a même fait une petite partie rapide, deux même, je crois. Quoi, planning Discord? Là, j'ai un autre planning, tenez. Là. Mais oui, elle a mis un truc là. Live sur les chaînes de Joe et Samuel Etienne? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais appeler Joe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis à la rue ou quoi? Oh! Non, je sais. Mais non, je suis con. Non, je crois que c'est ça. Attends, je crois que c'est ça. Attends, j'appelle quand même Joe. Ah, je viens de comprendre. Bah non, c'est bien mieux que ça, mais non, c'est bien mieux que ça. Allô? Joe? T'as vu mon SMS ou pas?
Non.
Non, c'est... j'ai paniqué parce que les modos, tu sais comment ils sont... tu sais comment ils sont précis et ils me disent « Ouais, demain... » Parce que je leur dis mon programme de demain, tu vois. Je leur ai même dit, je crois qu'on allait acheter des meubles, tout ça. Et ils me disent « Ouais, puis t'as un live aussi avec Joe et Pépin. » Et panique, tu vois.
Ouais.
Et après,
voilà. Mais du coup, comme sur son, elle l'a mis sur son planning, si tu veux, et elle a mis live. Ouais, mercredi. Mais un truc super mystérieux. Donc ça y est, c'est la folie. Live sur les chaînes de Joe Coco et Samuel Etienne, avec un groupe d'interrogation. Donc ils ont imaginé qu'on faisait un gros truc tous les trois ensemble, tu vois. Bercy, let's go, quoi. Mais son info elle est bonne, c'est juste que tu les connais les modos, ils comprennent toujours tout à travers, tu sais comment ils sont. On est en direct, hein, bien sûr. Bonjour au chat. Oh là là. Bon, ça va sinon? Ouais. Ah mais quelle idée. Bon, donc. Ah, la fête. Bon. Eh ben, je te dis au plus tard, à demain pour les meubles.
Allez,
salut Joe. Bon vieux téléphone. Ok, donc non, en fait, ce qui vous a mis dans l'erreur, puisque vous êtes quand même, vous êtes fourvoyé jusque le doigt jusqu'au coude. C'est une expression que je viens d'inventer. Oui, effectivement, c'est très mystérieux ce truc-là. Mais en fait, alors, j'ai des infos. Donc, Pépin. Elle est dans MVP demain. Ah, ça c'est un truc. Ouais, mais je comptais pas vous le dire, c'était un peu un secret. Bon, Pépin, elle est dans MVP demain. Donc vous savez, il y a trois chroniqueurs à chaque émission, voilà. Et plus je vis des gens que j'aime bien. Et parmi les trois chroniqueurs de demain, il y a Pépin. Voilà. Bon bah je leak. Bah oui, voilà, comme ça vous savez. Ok. Donc Pépin, elle est dans le MVP de demain. Voilà. Bon. Et par ailleurs, à un moment, elle va faire un truc avec Joe aussi. Mais du coup, c'est pas un truc tous les trois à un moment. Voilà, comme ça vous savez tout. Et par ailleurs, avec Joe, en fin d'après-midi, je vais acheter des meubles demain. Voilà. Ah, voilà. Ça y est, vous avez les infos. Ah. Putain, j'ai paniqué, j'ai encore oublié un truc. Parce que le programme, il est fou cette semaine. Julo, je comprends mieux. Julo de Modo qui dit ok, je comprends mieux. Oui, mais le problème, c'est que. Avant de balancer les infos, faut essayer de les comprendre. Je dis ça, je dis rien. Merci Babylonia51 pour le soutien. Merci Crumpy Dobby pour le joli pseudo et le quatrième mois. Merci Varroa pour le prêt. Merci Melissa pour les beats. Et je t'envoie de la force. Et je t'envoie beaucoup de force, Melissa. Funti, Derudeld, l'Extratovic, vous êtes incroyable et je vous aime. Ouais. Salut Samuel, j'ai rêvé de toi cette nuit, c'était super. Pas de truc louche, t'inquiète, ok, tout va bien, Bédi. Donc, demain matin, revue de presse. Demain, 12h, MVP. Ensuite, je reste là-bas. pour enregistrer 2-3 trucs. Après, avec Joe, on prend des mesures pour des meubles. En fait, on achète des meubles pour la rentrée de Time Out. Premier numéro de Time Out, saison 2, dimanche à 20h. Ah, je ne vous ai pas dit d'invité encore. Bah, je ne vais pas vous le dire, c'est une surprise. Vous êtes en tête visuelle, comme tout le monde. Voilà. Et on ne changera rien pour dimanche, mais on va peut-être acheter 2-3 petits meubles pour quand il y a des jeux un peu des FPS et qu'il faut être non pas avachi dans le canapé, mais un peu sur une table. On va acheter un truc. Voilà. Ça me plaît dimanche. Deuxième saison de Ça me plaît. Ah oui, je m'en mêle. Donc on recommence parce que je suis un peu vieux et gâteux. Demain, revue de presse. 12h, MVP. Le soir, opération mob pour le retour de Ça me plaît, mon émission sur le jeu vidéo du dimanche soir. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai encore ? Jeudi, bah, normalement, je passe une tête chez Rayou pour son event au Grand Rex Culture Clash. Voilà, sauf que le Ryu doit être débordé parce qu'il m'a dit « Sam, tu veux bien jouer un rôle ?» J'ai dit « Bah ouais, tu veux bien faire un petit truc ?» Bah, ce que tu veux comme d'hab quoi, Ryu, tu vois. Et on est mardi, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je pense qu'il est un peu sous l'eau. Ok, vendredi matin, alors j'avais un truc avec le journal Le Télégramme le matin. Mais le problème, c'est que j'ai un truc qui vient de se caler. Donc du coup, je vais peut-être bouger parce que je participe à un tournage vendredi avec un streamer. Mais ce sera plutôt une vidéo sur YouTube, sur un jeu vidéo. Ok. Et quelques jours après, j'aurai un stream sur ce jeu vidéo-là. Je n'en dis pas plus. Peut-être un jeu qui va avoir une nouvelle extension les prochains jours. Je ne sais plus. Bref. Bon, enfin, si, je sais, mais je ne vais pas vous dire. C'est un secret. Vendredi soir, 20h, je crois, la compétition Apex, voilà, où joue le PNJ, là. Ça va être n'importe quoi. On va comme des baleines, tout le monde va encore se foutre de moi. Samedi 21, je suis à Lyon pour un tournage pour Time Out, j'en parlerai ce matin puisque Time Out consacré, vous savez, beaucoup à Montpellier là, enfin avec un streamer de Montpellier, Guy, les trois viewers de Montpellier, bah, ça revient, notre grand jeu, avec cette fois une petite coloration Lyon et Marseille, voilà. Et donc je vous en parlerai tout à l'heure puisque il y a appel à candidature, il reste des places encore. 20 septembre, ouais. Top, ouais, c'est ça. Il reste encore des places pour que vous puissiez. Je remercie la personne qui m'a donné l'info à l'instant. Pour que vous puissiez participer à ces deux émissions. Hein, Time Out, c'est mon grand jeu de culture générale. Et on a fait jouer 3 viewers de Montpellier. Et là, on va faire jouer 3 viewers de Lyon et de Marseille. Et il reste encore des places. Le formulaire n'est pas clos encore. Et puis dimanche, la rentrée de Ça me plaît. Avec, je vous ai dit l'invité du premier invité de Ça me plaît saison 2 ou pas ? Salut, Caustic Moustique. Salut Babylonia, et merci pour les subs. Hein ? Je vous ai dit, alors, un petit leak quand même. Merci Bédi pour le prime. L'invité, le premier invité de la saison 2 de Ça me plaît, mon émission du dimanche soir sur le jeu vidéo qui a connu une saison 1 avec une trentaine d'émissions, 30 invités, une trentaine de jeux découverts, l'invité, le créateur de contenu, JDG, Fugu, certains cherchent, vient et me présente son jeu vidéo favori ou l'un des jeux qu'il a beaucoup aimé, comme ça il me fait découvrir. Voilà. Eh bien, c'est, mesdames et messieurs, est-ce que c'est Gotaga ? Est-ce que c'est Fugu ? Est-ce que c'est JDG ? Est-ce que c'est MV ? Est-ce que c'est Zidane ? Est-ce que c'est Zera ? Vous avez d'autres idées, d'autres envies ? Zidane, c'est un streamer ? Est-ce que c'est Macron ? Macron, c'est un streamer ? Est-ce que c'est Karaté ? Est-ce que c'est Michel Barnier ? Est-ce que c'est Evoxia ? Est-ce que c'est PA ? Est-ce que c'est Amel Bent ? Est-ce que c'est Rayou ? Rayou qui avait été un de mes premiers invités. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne vous le dirai pas. Voilà, Pépin, justement, en train de travailler sur le visuel. Et puis d'ici aujourd'hui ou demain, je vous poste le visuel et je pense que ça va vous plaire, en fait. Voilà. Et puis après, on va essayer de faire ça tous les dimanches. Non, je ne vous dis pas. Non ! Non ! Pourquoi je m'énerve comme ça ? Ça bosse. J'ai une rentrée qui est bien en vrai. Hein. Merci Bédi pour le prime encore. J'ai une rentrée, Hey, ça charbonne, hein. On peut pas dire que je me moque de vous, hein. Hein, je suis venu en touriste, j'ai découvert Twitch en touriste il y a 4 ans, et puis c'est quoi nos rendez-vous maintenant ? La revue de presse dès que je peux, du gaming dès que je peux. C'est la règle maintenant, c'est au moins un stream par jour, hein. Ok, même quand j'ai d'autres trucs, on est d'accord que des jours sans stream, il n'y en a quasiment pas. Ok, ça c'est la base, revue de presse, gaming. Time Out, on en a fait un l'an dernier, il y en a 3 là à l'automne, le grand jeu de culture générale et de culture pop. MVP, ma nouvelle émission sur le monde du travail et de l'emploi, là. C'est 2 par mois minimum. On va même en faire 3 en septembre, ok. Le mercredi à 12h. Le retour de Simple Play saison 2. Voilà. J'ai pas trouvé de sponsor comme l'an dernier. Bah, c'est pas grave. Je vais me servir des sous-sous chopés sur les autres OP pour faire une saison de Simple Play. Et bah voilà. Et bah, puisque je trouvais que cette émission elle était cool. Donc on va la faire quand même. Ça, c'est tous les dimanches 20h. Voilà. Quasiment. Quoi d'autre? Bah, c'est pas mal en vrai. Et puis les petits trucs à droite à gauche, quoi. Les compètes. Parce que maintenant, je suis un compétiteur de jeux vidéo. Pour que les gens puissent se moquer. Voilà. MVP, point d'exclamation, MVP mon Gruick. Gruick, t'as toutes les infos. Si vous savez pas ce que c'est MVP, ma nouvelle émission, c'est point d'exclamation MVP, MVP. Voilà. C'est tous les jours l'Everest ici. Clin d'œil à une actu, ça, mais quoi? C'est tous les jours l'Everest ici, je demande de quoi vous parlez. T'as un rythme de fou de stream maintenant. C'est vrai, mademoiselle Nebula? Sandwich cheveux. Ah, c'est pas bon ça. J'avoue, c'est très chaud, c'est très impressionnant. Non, mais voilà, on se décarcasse, quoi. Ouais. Non, pas de boulanger ni les nouveaux gammes Légion en soutien cette année. On avait prévu de faire une saison 2. On en parlait depuis l'an dernier avec Boulanger parce qu'il voulait s'inscrire un peu dans le long terme. Puis ça s'est bien passé, les stats étaient top. Vous étiez vachement nombreux à regarder cette émission, ils étaient super contents. Enfin, tout était OK, quoi. Et puis c'était un peu le projet depuis le début. Et puis, bah si vous avez des nouvelles de Boulanger, ça m'intéresse. Peut-être que c'est vous qui avez reçu mon mail de relance, mais j'ai dû l'envoyer à la mauvaise personne. Si jamais quelqu'un a reçu mon mail de relance à Boulanger sur ce sujet, bah n'hésitez pas à me le renvoyer, parce que je me suis fait un peu ghoster là. Voilà, je pense que la personne est un peu occupée. Voilà. N'hésitez pas. J'ai envoyé un mail là, il y a 2 jours en disant ah, peut-être que. Voilà. Je sais pas. Donc, pas de ça. Merci pour la proposition de raid. Tu m'en reparles tout à l'heure, mon ami? Ah oui, tout à fait. Ovitch me demande, désolé de ce hors-sujet, je me demandais si la question pour un champion. On était en capacité de recevoir des personnes, tu mets lourdement handicapées, fauteuil roulant électrique, besoin d'un buzzer adapté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je dis Ovitch, hein, je sais pas, j'espère que je prononce bien. Il faut passer les sélections comme n'importe quel candidat, bien sûr, c'est un jeu de culture générale, donc évidemment qu'on accueille les personnes en situation de handicap. Enfin, de ma part, ce serait quand même un scandale si on faisait pas des efforts de ce côté-là. Et en fait, le plateau est totalement adapté pour recevoir, on l'a fait déjà plein de fois, hein, des personnes en fauteuil électrique. On a reçu des non-voyants aussi. Donc, du coup, quand il y a un non-voyant, ça nous arrive assez souvent, on met pas de photo d'indice visuel, évidemment, tu vois, on adapte un peu le jeu. Et comme le fauteuil, par exemple, parfois, ben, il est pas adapté, il peut pas être assez près du buzzer ou XXX, on a un système de buzzer adapté aussi avec un buzzer à la main, avec un fil, tu vois, et un mini buzzer à la main pour que la personne puisse cliquer. En fait, on s'adapte à chaque fois, quoi, au handicap pour que la personne ait la meilleure expérience de jeu possible. Donc ça, on est assez, enfin c'est normal, mais bon, voilà, oui, bien sûr, il y a aucun souci. Mais faut passer les sélections comme tout le monde, bien sûr. Ouais. Et les habitués le savent parce qu'on voit régulièrement des personnes en situation de handicap sur ce jeu, quoi. Ouais. Voilà les amis pour les actus. Voilà, bah comme le dit Vosrodénier, ouais. Il y a pas longtemps, il y a effectivement quelqu'un en fauteuil avec un buzzer adapté comme ça. Qui était un passionné de questions pour un champion d'ailleurs. Voilà. Clamakin is back, te voilà toi. Bonjour Samuel, c'est Bénédicte, je suis voyante professionnelle. Souhaites-tu que je te tire les cartes? On dirait que ça va aller. Merci beaucoup Bénédicte, c'est adorable. Ouais. Merci de rien, Ovitch. Tiens-moi au courant. Bon, bah, je suis très heureux de vous retrouver. Kaizen, t'as déjà vu Samuel? Non, je n'ai pas encore vu le doc d'Inox. Je vais arrêter de vous trouver là-dessus, j'ai manqué de temps. J'étais invité à l'avant-première, mais... J'avais justement mon stream sur les Jeux Paralympiques, le handicap et l'inclusion. C'était vendredi soir. Ouais. Donc moi, Inox très gentiment m'avait invité à l'avant-première. Et en fait, bah, mon stream est tombé là. Et pour le coup, même si j'aime beaucoup Inox et que j'ai beaucoup de respect pour lui, je trouvais plus important de faire ce stream sur le handicap et j'ai raté l'avant-première. Voilà, il faut que j'aille voir la vidéo, mais j'ai pas eu le temps, quoi. Oui, Wolf King, on va commencer par ça. Du coup, est-ce que c'est confirmé que Trump a été victime du deuxième tentative d'assassinat? Oui, a priori. Du coup, on va commencer la revue de presse par ça. Voilà. Ouais. On y va? Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire de la revue de presse? Ce sommaire qui va vous donner l'essentiel de l'actualité en 3-4 minutes. Comme ça, vous allez pouvoir faire les savants, les doctes savants au travail ou que sais-je. Et après, on fera la vraie revue de presse. Let's go. Ok, c'est parti. C'est quoi ce yes là? Voilà, un bon gros yes, bien gras comme on aime. Ok, let's go pour le sommaire. Qu'est-ce qu'on a dans l'actualité ce matin? Brillant viewer que vous êtes, vous en parliez à l'instant. Hier, on m'interpellait à ce propos en pleine partie de Valorant. Oui, Sam, tu parles pas de Trump, la tentative d'assassinat, là. Chouchou, je suis en train de mettre des têtes, je peux pas tout faire, quoi. Et puis, j'expliquais aussi, prenons le temps, puisqu'il y a un doute, est-ce que c'est vraiment une tentative d'attentat, d'assassinat, est-ce que c'était pas des tirs dans un autre contexte sur le golf, on n'est pas trop sûr, attendons un peu, moi j'aime attendre parfois quelques heures pour ne pas vous raconter trop de bêtises. Les infos, je les ai, a priori, oui, c'était bien une tentative d'assassinat, d'attentat. On va voir cet article dans Libération qui l'explique très clairement. Deuxième attaque qui nourrit par ailleurs le complotisme du camp républicain, certains qui disent que c'est la faute des démocrates et de leur discours, qu'il y a des gens qui veulent tuer Trump. Voilà. Et on se penchera sur ce monsieur, Ryan Ruth, qui est l'auteur de cette tentative, hein, sur fond de soutien aux Ukrainiens. Manifestement, il en voulait beaucoup. C'est un ancien électeur de Trump. Merci Nigouille pour le prime, a priori. Un ancien électeur de Trump déçu. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, il voulait dénoncer le soutien insuffisant des États-Unis et notamment de Trump aux Ukrainiens. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. On verra, c'est ce monsieur que vous voyez ici. Voilà. Justement, lors d'une manifestation en Ukraine. Parce que c'est un Américain qui s'est rendu sur place. OK ? Alors, a priori, il n'a peut-être pas eu le temps de tirer. On va voir ça tout à l'heure. C'est un agent du Secret Service qui a vu l'arme dépasser d'un buisson. On va rester sur l'actualité internationale. On ne va pas oublier ce qui se passe à Gaza. On ne va pas s'habituer à ce qui se passe à Gaza, et merci à l'Humanité de consacrer sa une aux Palestiniens et à cette interview de Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre, qui était à la fête de l'Humanité ce week-end, ce qui est un peu surprenant, c'est un homme de droite, mais du côté de l'UMA et de la gauche et des communistes, ben, on apprécie le discours de Dominique de Villepin sur l'actualité internationale en ce moment. C'est un homme qui a toujours une vision sur l'actualité internationale. On se rappelle à son opposition à la guerre en Irak, par exemple. Et son discours sur le sujet. Et là, c'est pareil, il estime que sur Gaza, la France n'est pas à la hauteur. Voilà. Dans ses prises de position, et ben, du coup, je vous lirai cette interview de Dominique de Villepin. Il y a Métuy qui était sur place, d'ailleurs, à la fête de l'Humanité. J'espère que c'était bien. J'étais à son entretien sur place, me dit Métuy. Il y avait le goût de Jean Massier qui était là-bas, bien sûr, aussi. D'ailleurs, j'étais content parce qu'après notre petit stream cuisine de... C'était quand ça ? Notre stream cuisine, c'était vendredi soir. Non, c'était samedi soir. Bon, on a raid justement Jean qui m'a accueilli par un merci pour le raid, camarade Samuel. Ce qui m'a fait rire. Je l'ai trouvé sympa. Ouais, donc on lira cet entretien. Et puis on va rester sur la politique, mais en retour en France. Avec, oh, c'est incroyable, des premières tensions entre le monsieur très grand là à droite. Michel Barnier, qui est le nouveau Premier ministre, là, et le président Macron, à gauche. Là, voilà. Première tension, parce que, bah, oui, en gros, le deuxième à droite est en train de former son gouvernement, parce qu'on a un Premier ministre, on n'a pas de ministre, et il a quelques idées, quelques envies, et le président Macron valide pas tout et dit « Michel, il faut ouvrir ce gouvernement à la gauche ». Et aux écologistes, hein, parce que c'est un gouvernement d'ouverture que je veux. Voilà. Et Michel lui dit, mais moi je suis de droite, moi. Tu m'as nommé Premier ministre, parce que moi, à la base, je suis de droite, moi. Et en fait, j'ai tous mes amis de droite qui veulent venir au gouvernement, là. Il me dit, oui, mais voilà. Mais, non, parce que à la base, je suis de droite, c'est parce que... Voilà. Donc c'est voilà, on est bien, on est bien. C'est, tout ça est très clair, tout ça est extrêmement clair. Tout va bien. J'adore cette histoire. On va se pencher là-dessus. Merci encore Nigouille pour le soutien. Alors ça, au début, ça ne m'a pas trop hypé. J'ai dit, ouais, pfff. Et puis en fait, l'histoire est assez incroyable. Les dessous d'un départ surprise, c'est Thierry Breton, le Français, qui quitte son poste de commissaire à Bruxelles, le commissaire européen. Super boubou, salut Samuel, tu as vu le documentaire d'Inox Live? Arrêtez, putain, je ne l'ai pas vu encore. Thierry Breton quitte la commission sur fond de tension avec Ursula von der Leyen. Alors, Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne. Et alors... Attendez. Putain, j'en reçois un mail de fou. Je reçois un mail de fou. Quoi ? Hein ? Je reçois un mail de fou, là. C'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. À creuser. Ok, bon. Non, c'est pas un mec qui s'appelle Fou. Mais non, c'est pas un mail large sur machin, là, King Julien. C'est rapport à une conversation qu'on a eue ensemble tout à l'heure. Bon, je ferme ce mail parce que c'est pour le stop secret. Je le ferme tout de suite. C'est une conversation qu'on a eue il y a quelques minutes, là. Mais j'ai reçu le mail, c'est vrai. Peut-être quelqu'un qui a écouté le stream. En tout cas, c'est a priori une bonne nouvelle. C'est très, très drôle. Donc... est bizarre. c'est très, très bizarre. Mais si je pouvais vous raconter, ce serait très vraiment drôle, mais je peux pas. C'est un secret. Incroyable. Je suis vraiment réveillé ou c'est ma nuit qui se termine et je suis en train de rêver d'un truc là, parce que c'est quand même... C'est un truc dans un... J'écrirais ça dans un scénario de film, on me dirait Samuel, t'exagères. Alors arrête avec ton imagination, toujours inventer des histoires. Là, c'est what the fuck, quoi. C'est marrant. N'en est pas beaucoup. Non, vous êtes trop nombreux. Mais non, je peux pas vous expliquer. C'est incroyable. Bon, par rapport à une discussion qu'on a eue tout à l'heure, j'ai des nouvelles positives, étonnantes. Mais bon, c'est bon. Mais même si ça arrange pas mes affaires, mais on va s'en arranger. Donc, Thierry Breton quitte la Commission européenne. Et alors, ce que j'apprends, moi, c'est qu'il s'entend pas du tout avec Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission. Et en fait, elle voulait sa peau. Elle en peut plus de Thierry Breton. Pourquoi ? Peut-être qu'il est un peu trop indépendant, parce que Thierry Breton a critiqué la gouvernance d'Ursula von der Leyen, parce que Thierry Breton énerve beaucoup les Américains, notamment les patrons des grands réseaux sociaux, des grandes entreprises Internet américains, pour... encadrer un petit peu tout ça, et en fait ça l'énerve parce qu'elle est plutôt pro-américaine. Bon, elle a eu sa peau, et c'est ce que j'ai compris en lisant la presse ce matin. Donc d'abord cet article du Parisien, aussi ce dossier dans Libération, voilà, Libération qui est vraiment très en colère contre le président Macron, Libé, qui accuse le chef de l'État d'avoir lâché Thierry Breton et d'avoir cédé à la pression d'Ursula von der Leyen. Et Libé dit, c'est pas une très bonne nouvelle, en fait on s'est couché, quoi. On s'est couché. Voilà. Donc, voilà. Qui a tué Thierry Breton, carrément ? Donc, en fait, l'histoire est assez intéressante. Ouais. Ouais. Alors, justement, puisqu'on parle des tentatives, par exemple, de Thierry Breton en tant que commissaire européen pour imposer aux réseaux sociaux et notamment à Twitter, eh bien, bah, que ce soit un peu encadré, que ça ne passe pas en sucette tout le temps, que ce soit un peu modéré, que ce ne soit pas le lieu de toutes les dingueries. Je ne sais pas si vous scrollez un peu Twitter, mais c'est juste... ces derniers temps, quand je scroll Twitter, notamment les vidéos de Twitter, c'est violence, 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 des trucs inouïs. C'est devenu la poubelle de la poubelle de la poubelle. Je sais pas ce qui se passe, c'est un enfer. Mais bon, moi je fais mes petits tweets en disant ah bah tiens, tu vas faire un petit stream ce soir et tout. Puis à côté, t'as des dingueries, quoi. Bref, donc il y a beaucoup d'actu sur Twitter ce matin. Il y a l'Australie qui vient de prendre à partie Elon Musk en lui demandant de mettre de la modération. Voilà. C'est très très drôle parce qu'ils envoient des noms d'oiseaux évoquant une responsabilité sociale des réseaux sociaux. Donc ça, en Australie, se passe des trucs. Et puis le Figaro, coïncidence, consacre un dossier à l'économie de Twitter, de X, et c'est une catastrophe puisqu'en fait, bon, en fait quasiment, enfin, une grosse partie des annonceurs sont partis et ils sont pas revenus parce qu'en fait, ben, les grosses marques veulent pas que leur marque soit exposée à côté de bah du grand n'importe quoi qu'on peut voir sur les posts de Twitter et notamment de toute cette violence. Voilà. Alors le débat, ça c'est ce que Musk dit, c'est que c'est pas de la modération, c'est de la censure. Tu vois, c'est ce que dit Captain Lotan. Modération, c'est le petit mot sympa pour dire censure. Donc Captain Lotan, qui est un libertarien comme on dit, hein, voilà. C'est exactement ce que dit Musk. Musk dit ouais, les Australiens là, ce sont des fascistes, il dit. Enfin, il dit des fascistes de gauche, précisément. Bon, c'est Musk quoi. Donc on se penchera aussi sur l'économie de Twitter, qui ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a des gens qui sont plutôt d'accord avec ça ici, je le vois dans le chat. Je vous vois. Et puis, on passe du pire des réseaux sociaux à la meilleure des plateformes, qui est Twitch, toujours en sommaire. Je n'ai jamais été confronté à la violence sur Twitter, je l'utilise depuis des années. Tu te fous de ma gueule, General ? Je n'ai jamais été confronté à de la violence sur Twitter et je l'utilise depuis des années ? Non, toi, t'es abonné à J'aime lire, t'es pas abonné à Twitter. Tu te fous de ma gueule, en fait. Non, General, tu te fous de ma gueule. Non, tu lis Perlotin, Le Petit Lutin, tu lis Okapi, tu lis J'aime lire, tu lis un truc comme ça, mais tu sais pas, t'es pas sur Twitter. Non, non, ou tu bosses à Twitter France. Si je vais voir ton historique. Non, c'est impossible, on est d'accord. C'est moi, je j'ouvre Twitter. Faire un test. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, Pépé Garcia, je l'aime bien. Lui. Donc là, c'est un truc sur un tueur en série. Juste sous Pépé Garcia, c'est une histoire de tueur en série. Le mec, il a du sang partout sur son masque. Ok. Quoi ça? Il y a Julien Pain qui arrive sur Twitch aussi. Voilà. Ah, un compte parodique de Relsan, ça c'est drôle. C'est quoi ça? Ça c'est. On est entre le cul et l'extrême droite, c'est pas très très clair. Voilà, là c'est un truc de MMA. Ça c'est drôle, ça c'est le truc des mecs qui font de la voiture dans le désert. Ça, c'est Musk. Je ne suis pas abonné à Musk, mais j'ai à peu près un tweet sur 10, c'est Musk. Voilà. Voilà, là, c'est un mec qui avale un couteau enflammé ou je ne sais pas quoi. Voilà. Là, c'est un mec qui casse une piñata. Ouais. Bon, à mon avis, il va finir par taper sur quelqu'un. Attends, je regarde la vidéo. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah, oui. Il veut taper une piñata, puis en fait, il envoie le ballon dans la tête de quelqu'un. Ouais, ça, c'est ça. Là, c'est un mec dans un manège et puis il se prend une barre dans la tête, ok. Là, c'est du sexe. Ok. Là, c'est un mec qui met un chien dans un barbecue. Ok, d'accord, ça aurait été assez drôle. Ok, là, c'est un mec qui fait du drift sur un parking et comme d'habitude, il va faucher quelqu'un. Ah non, c'est la voiture qui prend feu, pardon. Ok. Là, c'est un mec qui rentre dans un ascenseur. Je connais la suite, il va se battre avec tout le monde. Ça, c'est Twitter. Voilà. Et encore, je suis pas allé voir les commentaires. Voilà. Donc ça, c'est la violence des plans. C'est un enfer, c'est un enfer. Merci à Bibi Foc. Trop mignon dans le pseudo. Merci Mimil. Ah oui, non, je m'en régale, moi. Je m'en régale. Et encore, on parle pas des commentaires, parce que le problème, c'est ça, en fait. C'est la violence, elle est surtout dans les mots, quoi. Hein. Tellement drôle, car je suis tombé sur les mêmes vidéos. Oui, mais bon, quelqu'un me dit que c'est pas violent, Twitter. La piñata, c'est drôle, c'est pas violent. Bah si, quand le bâton finit dans la tête du mec qui tient la piñata, si, quand même. Hein. Donc, alors, je pars du pire des réseaux sociaux et j'arrive à la meilleure des plateformes qui est Twitch, voilà. Et on apprend que l'humanité dont je vous parlais avec la fête de l'humain, eh bien, arrive sur Twitch. Ils viennent de lancer leur chaîne. Libération l'a fait il y a quelques mois et je trouve avec succès. C'est-à-dire que c'est un joli contenu, c'est qui est intelligent, qui est pensé. Et c'est autour de l'humain de le faire. Et GG, je dis bravo l'humain et on verra comment ça se passe du côté de ça. Et puis, bon, c'est peut-être pas une info pour vous, mais Ubisoft va pas très fort, le grand studio français du jeu vidéo, là. Ça fait un moment que ça va pas fort, que l'action se porte pas très très bien, que les jeux se vendent pas très très bien. Et là, ils ont des sorties, mais qui se passent pas très très bien. Voilà. Lancement raté, plongeon boursier, la série noire d'Ubisoft, c'est un dossier dans les échos. Voilà. Et puis, du coup, Les Échos se penchent aussi sur d'autres studios français et certains qui marchent bien en ce moment, d'autres un peu moins bien. On se penchera sur certains des jeux. Le jeu vidéo ensemble va pas très bien, dis-je en doute. Bah oui, c'est le post-crise sanitaire. Hein. Tout a explosé pendant le Covid. On a surconsommé les jeux vidéo. Les studios ont embauché beaucoup. Et là, bah, effectivement, l'activité, elle baisse. En soi, c'est pas si grave. Il est normal que les gens qui aient un peu moins de temps à la maison après la crise sanitaire bah, jouent un peu moins, achètent un peu moins de jeux. Voilà, donc c'est sur un plan social, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de licenciements dans les studios, vous savez. Mais globalement, la dynamique du secteur est toujours là, quoi. Hein. On n'est pas en train de se détourner des jeux vidéo. Je connais même des vieilles personnes, moi, qui, passé 50 ans, se mettent à jouer aux jeux, qui se sont pris de passion pour les jeux. C'est même catastrophique. Moi, je connais des gens âgés qui jouent des heures et des heures et des heures et qui ont un niveau, mais claqué au sol. Mais c'est désespérant. Je pleure quand je regarde leur stream, mais ils sont contents, ils ont l'air de jouer. Bon, voilà, faut pas juger. Et donc le jeu vidéo se porte très bien. Et puis on finira avec un truc assez étonnant. Oui, des dingos sûrement, bah oui, Ticlem, je ne juge pas, mais bon. Ils mettent des têtes des vieux, oui, par hasard, parfois ils tirent en l'air, et puis c'est jamais voulu. Ouais, ils sont tellement ridicules ces vieux-là, je suis d'accord. Ridicule. Je connais un gars. Vous avez jamais me croire. Je connais un gars, il joue depuis 9 mois à Valo. Il est fer 3. Vous allez me dire, c'est pas possible, c'est impossible. Si, je connais un mec, il est fer 3, ça fait 9 mois qu'il joue à Valo quasiment tous les jours. Mais si, c'est possible. Je vous jure que ce gars existe. C'est impossible. Mais il existe, je le connais. Si. Il y a Ziblit qui dit imagine s'il streamait dessus devant des milliers de personnes. Non, faut pas exagérer quand même. Oui, le nul, bah oui, quel long. Le nulos. Retire-lui le PC. J'ai essayé. J'y arrive pas. Et on finira par un truc assez étonnant. Moi, je suis plutôt sensible à la question animale, comme on le devient tous de plus en plus, et c'est bien. Bon. On parle de plus en plus du traitement des animaux, que ce soit des domestiques, sauvages, pour l'élevage ou autre. Voilà, et on commence à prendre conscience que notre humanité, être humain, ça passe aussi par le respect du vivant et de tout le vivant. Bon. Certains scientifiques avancent sur le sujet et se demandent si d'abord les animaux ne sont pas doués de conscience, mais notamment si les insectes ne sont pas doués de conscience. Ouais. Plus de 200 chercheurs viennent de signer un texte appelant à reconnaître la possible existence d'une conscience animale, y compris chez les insectes. Ouais, quand tu écrases une mouche, tu écrases peut-être un être doué de conscience. Cette thèse ne suscite pas de consensus parmi les scientifiques, il y a débat sur ce sujet, voilà, et questionne notre rapport aux animaux. T'as Mystérieuse qui dit « je mets les araignées dehors, jamais je les tue », pareil. Moi je vois une araignée dans une maison, je prends un petit verre, une petite feuille de papier, je glisse la feuille, comment je fais déjà ? Ah oui, je mets le verre sur l'araignée, je mets la feuille de papier dessous, très légèrement, pour ne pas lui abîmer les pattes, et je l'amène dehors. Voilà. Hors de la pièce où ça crée la panique. Voilà. Alors, la question, c'est pour les moustiques. Ah ouais, vous êtes beaucoup à parler de moustiques. Le moustique n'a pas de conscience, dit Iron Tyrex. Les moustiques souffrent aussi trop bien, dit Usul, qui est un peu sadique. Les moustiques, par contre, ils cherchent, eux, dit Edvex. Voilà, qu'est-ce qu'on fait des moustiques ? Moustiques, zéro pitié. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais moi je pense qu'il faut distinguer. Il y a moustique et moustique. Rappelons qu'il y a moustique mâle et moustique femelle. Et que les seuls moustiques qui piquent sont les moustiques. Question pour un champion. Sont les moustiques. Lesquels? Femelles. Ok, tout le monde là. Bon, ça c'est, on le sait. Donc moi par exemple, l'été, notamment quand je suis en Corse, une région que j'aime bien visiter l'été, l'été, je ne tue pas les moustiques aveuglément. Discernement. Voilà. Attention. Le joueur d'e-sport que je suis a la vue acérée et surpuissante, trie en fait, et je n'écrase jamais un moustique mâle. Voilà. Jamais. Faites très attention à ça. Le frelon asiatique, le frelon, je dégomme. Quand j'ai des enfants, je vois un frelon, je dégomme. Merci Poissante pour le quatrième mois. Je leur accompagne pas à la porte, je lui mets un gros coup de bombe dans la gueule. Comment tu reconnais un moustique mâle là-bas, à ton avis? Ben, c'est évident, non? Bah alors? Enfin, quand même! C'est une question je vois très bien, j'ai une très bonne vue. J'ai une très bonne vue. Quand même, c'est évident, non? Bon, voilà pour ce sommaire, vous avez l'essentiel de l'actualité, maintenant vous pouvez partir. Non, vous pouvez rester, comme ça on va lire tous ces articles, on va bien rigoler. Ou apprendre des choses, ou débattre, ou se passionner, tout ça. On le reconnaît juste parce qu'il traîne. Hein, il traîne pas. Quoi? Hein? Un peu de tenue dans le chat, là, dis donc, je parle des moustiques, vous êtes partis, certains qui ont genre 12 ans, là, vous devriez être à l'école, d'ailleurs, sont partis sur des sujets un petit peu, attention, là, non, les blagues, ouais, je vais dire le terme, je vois des blagues sexistes, là, en fait, ça me plaît pas du tout, mais je rigole pas du tout, non, mais en vrai, attendez, bon, non, les gars, putain, je parle aux gars parce que c'est des mecs qui font des blagues comme ça. Je veux pas de ça ici. Ça va prendre les carnets correspondants, je vais mettre des mots pour vos parents parce que c'est des enfants, c'est pas possible ça. Je veux pas de ça. Hein. Les gars, l'humour n'excuse rien. Ok. J'ai 40 ans et entendre parler de baloche d'insectes me fait rire, c'est grave. Non, ça c'est ok. Pas de tenue, exactement, la loutre furieuse. C'est subjectif l'humour, ouais, mais bon, non. Non, non, non. Non, non, non. Non. Alors, en plus, on est sur Internet, sur les plateformes, sur les réseaux, il y a quand même un sujet là-dessus. Donc, moi, je dis, il faut faire attention aux mots, quoi. Ça commence par ça. Spécial dédicace à Mamie Odette, de la part de Namik dans le chat. Voilà, ça, c'est cool. Je vous demande de vous arrêter, exactement. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse, bande de belles personnes? Est-ce que j'ai un yes?
Oh yes!
J'ai un yes. C'est parti ou pas? Tu vois, Rick Anima, Roh, t'as pas d'humour, mon quotidien au boulot. Voilà. Je pense qu'il y a des blagues, il va falloir arrêter. Hein. Déjà, dans les années 80, c'est lourd, en 2024, il faut arrêter. Ok? Il y en a qui ont reçu le t-shirt The Event? Demande Bones, vous avez reçu votre t-shirt The Event? Moi, j'en ai deux, moi. Eh ouais. Eh ouais, ça flex ici. Ouais, j'en ai deux, moi. Un, moi j'ai mes deux t-shirts du The Event et je vais sans doute en porter un. Question pour un champion. Ah, vous l'avez pas? Moi je l'ai, j'en ai deux. Nanana. Et ouais, moi j'ai un t-shirt The Event, j'en ai même deux. Ah, certains. Il y a quelqu'un qui vient d'être banni par Salty Pimous, là, le pseudo. rien que le pseudo, ça méritait un ban, j'ai l'impression. Donne un. Non, c'est mes t-shirts. Bon, j'ai rien connu. Allez, go. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts pour Trump? Let's go. Enfin, personne n'est prêt pour Trump, mais. Vous êtes prêts pour l'article sur Trump? Ok, c'est Libération qui nous confirme effectivement qu'il y a bien eu, a priori, une tentative d'attentat, d'assassinat contre Trump. C'est dans l'IB du jour, une deuxième attaque, puisque vous vous rappelez que la première tentative a emporté un petit morceau d'oreille de l'ancien président. Deuxième attaque qui nourrit le complotisme du camp républicain, vous verrez pourquoi, parce qu'ils estiment que du coup les discours tenus dans le camp démocrate incitent à la violence contre l'ancien président. Donald Trump semble avoir de nouveau échappé à un projet meurtrier, donc c'était dimanche, déjoué une extrémiste par le Secret Service, qui avait été critiqué pour justement leur gestion estimée très approximative de la première tentative d'attentat. 9 semaines après qu'une balle a effectué son crâne lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump a manifestement réchappé dimanche à une nouvelle tentative d'attentat à sa vie. À 51 jours de l'élection. Ah, ça se rapproche quand même. À 51 jours de l'élection, quelqu'un dit jamais 203, ben j'espère pas. Parce que, même si j'ai pas beaucoup de sympathie pour le personnage, la violence en politique, je dis non. À 51 jours de l'élection, l'ancien président et éternel candidat du Parti républicain brigue pour la troisième fois la Maison-Blanche. Une fois, il a tenté, il a été élu. Une deuxième fois, il a voulu être réélu. Il a pas voulu, donc c'est bien une troisième fois. a dû être évacué en pleine partie de golf, le pauvre, avant qu'un homme suspecté d'avoir projeté de le tuer ne soit arrêté et placé en détention. Selon le récit livré par les autorités dans une première conférence de presse en fin de journée dimanche, Donald Trump se trouvait donc sur le green de son parcours de golf. On sait que c'est un passionné de golf. Son parcours qui porte son nom d'ailleurs, le parcours de Donald Trump, à West Palm Beach en Floride, non loin de son club balnéaire de Mar-a-Lago, qui lui tient lieu de résidence principale. Il était environ 13h30 heure locale, quand un membre du Secret Service, l'histoire est assez incroyable, on est dans un film, chargé de le devancer sur le green, donc il va sur le green, il check un peu et tout, et il a repéré le canon d'une arme à feu qui perçait la clôture grillagée couverte de feuillage entre le cinquième et le sixième trou, c'est extrêmement clair. Voilà. Trump se trouvait alors à entre 275 et 450 mètres. Pas d'une très grande distance quand il s'agit d'un fusil à lunettes, a dit un shérif local par exemple, soulignant que le parcours, qui est entouré par plusieurs routes ouvertes au public, est entouré de bosquets, de buissons, et si quelqu'un y pénètre, il est quasiment invisible. Donc le truc n'est pas super sécurisé. Ouvrant aussitôt le feu, l'agent a fait décamper le tireur. Donc en fait, le tireur, a priori, n'a pas eu le temps de tirer, mais l'agent, oui. Le tireur est parti, il a abandonné derrière lui des sacs à dos dans lesquels il y avait des plaques de céramique, vraisemblablement pour se protéger de tir, une caméra GoPro, et surtout un fusil automatique. Je suis allergique aux armes. Ça me fait tousser. Et surtout un fusil automatique avec lunettes de visée de type AK-47, arme dont Trump lui-même s'était récemment livré un étrange éloge, puisque Trump n'est pas du tout opposé au lobby des armes, vous le savez. L'ancien président a été placé en sécurité, déclaré sain et sauf avant d'être reconduit à sa demeure, placé sous un dispositif de sécurité rehaussé. Je suis allergique aux armes et ça explique bien des choses sur Valo. Ah oui, c'est pas faux. Je peux pas critiquer ce message. Photographié dans sa suite par un passant, alors qu'il avait pris le volant d'un SUV noir, le suspect sera rapidement appréhendé par la police locale à une soixantaine de kilomètres au nord de la Seine sans opposer de résistance. Voilà. Alors, il y a eu des réactions, bien sûr. Hein. C'est pas anodin de tirer sur un candidat à la présidentielle, quand même. Hein. Dans un post publié dans la soirée sur son réseau Truth Social, parce qu'il a créé son réseau social, Trump a adressé ses remerciements aux forces de l'ordre ainsi qu'aux agents du service Secret Service chargé de sa sécurité qui avait été critiqué lors de l'attentat de Butler et qui avait même entraîné l'ouverture d'une enquête parlementaire et la démission de la directrice du Secret Service. Le président s'en est pris lundi soir sur Fox News à la rhétorique de Joe Biden et Kamala Harris. Hein. Donc il a dénoncé les démocrates qui fait que l'on me tire dessus pour l'ancien président Trump. C'est de la faute des démocrates et leur discours qu'on lui tire dessus. Le suspect adhérait à leur discours, estime-t-il, et agit en conséquence. C'est un peu plus compliqué parce que c'est un ancien électeur de Trump. On va le voir dans un instant. Il a vite été débordé dans l'ignominie crétine écrit Libération qui se lâche par Elon Musk. Hein. Le magna, le milliardaire pro-Trump, parce qu'en fait il soutient Trump officiellement dans sa campagne, qui s'est vendu d'un post sur X. Trump qui a dit quoi? Il a fait mine de méditer sur ce constat que personne n'essayait d'assassiner Biden Kamala. Ah, Trump a fait le constat que personne n'essayait d'assassiner Biden et Kamala Harris. Ce qui est encore d'un grand niveau d'analyse politique. Et on remercie Musk pour cet apport extrêmement intéressant. Elon Musk, on va en parler un petit peu ce matin, d'ailleurs. Alors, on en sait un peu plus sur le monsieur qui a voulu tirer sur Trump. Merci beaucoup, Bones, pour le soutien. Du coup, la personne n'a pas eu le temps de tirer, non, a priori, puisque l'agent du Secret Service lui a tiré dessus et l'a fait fuir. Ryan W. Roth de l'Ukraine a une aversion pour Trump, parce qu'en fait c'était un pro-ukrainien, un américain, qui est l'auteur de ces tirs, un déçu du trumpisme, qui se présente comme un défenseur de la cause ukrainienne. Voilà ce monsieur que vous voyez ici, qui s'appelle Ryan Roth, lors d'une manifestation d'ailleurs en Ukraine, il s'est rendu sur place. Qui est Ryan Wesley Roth, diplômé en génie mécanique? C'est ce qu'on voit sur son profil LinkedIn, propriétaire d'une entreprise de construction d'habitat léger. C'est son engagement pour l'Ukraine qui ressort de ses nombreuses prises de position sur les réseaux sociaux. Ainsi, dès février 2022 et l'invasion russe, il plaide pour un soutien militaire à Kiev, allant jusque, à se dire prêt à aller se battre sur place et à mourir pour la défense de l'Ukraine. Il s'est ensuite rendu dans le pays quelques semaines seulement après le début de la guerre. On le voit ici lors d'une manifestation sur place. Depuis 2 ans, il apparaît d'ailleurs aux États-Unis dans différents médias comme une voix américaine appelant à lever une armée de volontaires internationaux. À plusieurs reprises, l'homme fait part sur ses réseaux de son projet. Alors son projet à lui, c'était transférer des soldats afghans qui ont fui les talibans, merci Mr. Egg, pour les envoyer sur le front ukrainien. C'était son projet. Tu prends des soldats afghans qui ont fui les talibans et tu le mets sur le front ukrainien. C'était son projet. Voilà. C'est ça qu'il voulait défendre. Cyrus M se présentait comme un ardent défenseur de la cause ukrainienne, notamment via la mise en place d'une levée de fonds sur Internet. Plusieurs personnes se revendiquant de la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine le présentent plutôt comme un imposteur, un recruteur fantoche. Bon. L'an dernier, Rouge, du coup, avait consigné sa désillusion vis-à-vis de ce conflit ingagnable, la défaillance fatale de la démocratie, avait-il déclaré sur les réseaux. Il distille aussi son aversion pour Trump, parce que c'est un ancien électeur de Trump, mais il estime que Trump n'a pas été à la hauteur de ça. Et il regrette avoir élu un président sans cerveau. Voilà. Il aurait voté pour Trump en 2016 avant de se tourner vers Biden en 2020. Voilà. Bon, il reproche différents trucs, c'est pas très clair. Bon, voilà pour le monsieur. Voilà. C'est dingue, oui. Bah, ils sont... Ah bah, c'est l'allergie aux arbres. Il y a du pollen ou quoi ? Voilà ce monsieur. Voilà. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Salut Antonio. Merci pour ton message. Oh là là, c'est quoi ce message de fou ? Bah, on a envie de dire le message d'Antonio, son premier message. Parfois, t'as les gens sur Twitter, le premier message c'est caca. Donc, c'est arrivé ici où. Ouais, gros con, tu vois. Et puis t'as des premiers messages comme celui d'Antonio qui dit bonjour Sam et toute l'équipe, c'est déjà quelqu'un qui dit bonjour. Je tenais à vous adresser un petit message aujourd'hui pour vous exprimer ma gratitude pour votre personnalité et tout ce que vous apportez au quotidien. Que ce soit Sam ou la communauté, restez positif, contribuez à promouvoir la paix autour de vous. Et soyez bienveillants et respectueux envers les autres. Même face aux défis que nous rencontrons chaque jour, je vous souhaite à tous une excellente journée. Putain, t'as des gars qui viennent ici, leur premier message c'est caca quoi. Et t'as des gens comme... Voilà, merci à toi. Voilà, et un petit message pour la commune en plus. Merci Antonio. Merci Laricola pour le soutien. Merci pour le quatrième mois. Comment ça, caca, c'est plus inspirant ? Ah, il y a Rise Up qui vient de poster le premier même message. C'est parce que tu veux que je dise la même chose sur toi, Rise Up ? Comment ça se passe ? C'est quoi tous ces cacas dans le chat, là ? Moi, mon premier message, c'est caca. Tu veux que j'aille voir Envis, tiens, je vais voir ton premier message. Tu veux que je te dise ton premier message ? Putain la vache. Waouh. L'abbé Pierre l'a très bien résumé, la colonisation israélienne. Ok, tout de suite, waouh. On y va, hein. Ça rigole pas, hein. Premier message, tu veux. Candel, ton premier message, ça a été. Coucou Pépin, à demain matin. Ça, c'est cool, ça. C'est trop mignon. Trop chou. Ça charge, tu veux que je te dise ? J'adore ce jeu. Ça charge, t'as écrit ton premier message, c'était il y a longtemps. Hein. Oh là, mais t'es là depuis quand ? T'es là depuis longtemps. Ton premier message, c'est « Va te faire foutre, gros con de Samuel Etienne ?» Sérieux ? Non, c'est « Hello ». C'est très bien. C'est « Hello ». On peut le voir nous-mêmes, notre premier message, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas informaticien non plus. Alors, Z dit, t'as pas lu mon premier message, il est important, c'est sur les araignées. Ok, let's go. C'est pas bien de mettre les araignées dehors, dans le garage, c'est mieux. Ouais, je sais. La plupart du temps, elles subissent un choc thermique, elles meurent, j'ai jamais vérifié, mais j'ai appris en SVT. Ouais, non, t'as raison. Je crois que les araignées, il ne faut pas les mettre dehors, il faut les mettre tout dans le garage. Ouais. Alors moi, je n'ai pas de garage, parce que je suis en appartement. Alors j'en fais quoi de mon araignée là qui traumatise les enfants ? Hein ? Ah, j'ai pas de garage moi. Je descends de l'immeuble, je cherche un garage, 10 euros l'heure, on est à Paris, et je relâche l'araignée dans le garage, ça m'a coûté 10 balles quoi. Putain. T'achètes un garage, tu lui crées une petite maison, tu lui achètes un studio. Ou dans le couloir de l'immeuble. Ouais. Ok. Dans l'appart du voisin. Ok. Une petite maison, peut-être. Je compte une petite maison. Hein. Tu l'adoptes et comme ça, tes enfants l'aimeront. Oh, vous êtes trop chou. Ok. C'est pour ça que j'aime cet univers. Bon, voilà, vous en savez un peu plus sur la tentative d'attentat contre Trump. On y reviendra, bien sûr. Merci l'humanité pour cet entretien de Dominique de Villepin, homme de droite, mais invité à la fête de l'UMA ce week-end, apprécié notamment par les communistes pour ses propos sur la politique internationale et notamment sur Gaza. Villepin qui estime qu'on a le devoir d'ouvrir les yeux et que la France n'est pas à la hauteur de la situation. Ah oui, c'est mon WhatsApp qui est ouvert. Pardon, c'est pas chez vous. Qu'est-ce que ça dit ? C'est important. Ok, c'est bon, ça bosse. Attends. Excuse-moi, parce que sur les émissions, il y a du taf, ça taf. Voilà. Attends, j'ai un message de Magla qui est adorable aussi. Oh là là, ça fait plaisir en vérité. Ok. Oublie pas le PQ, Bébou. Non, c'est pas du tout ce message que j'ai reçu. Pas du tout. Oh, il n'y a plus de PQ au studio en vrai. Quelqu'un pouvait m'en envoyer. Ouais, je n'ai plus de papier toilette dans le studio. Plus du tout. Du coup, je ne fais plus pipi, plus caca au studio. Ça, c'est un vrai sujet. Il faudrait que je m'en achète par contre. Alerte papier, exactement. Ouais. J'ai justement un rouleau si tu veux. Merci New Cats. Bois pas trop de café du coup. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. On va ouvrir une cagnotte litchi. Merci beaucoup, Elé. Toujours les histoires de caca sur le stream de Samuel. Toujours. Effectivement, Romain, quelque part, on peut dire que je suis au bout du rouleau. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Au bout du rouleau. Hein ? Oui, ou dans la merde, mais bon. Revenons quand même à Dominique de Villepin. Chef de la diplomatie française, il fut en 2003 le visage du non à la croisade de George W. Bush en Irak. On se souvient d'un célèbre discours, on parle de Dominique de Villepin. Il fait aujourd'hui entendre une voix critique sur les questions internationales, dénonçant la guerre d'anéantissement que livre l'État d'Israël aux Palestiniens de Gaza, plaidant pour une relation nouvelle avec le Sud. Il était, Dominique de Villepin, dimanche, l'invité de la fête de l'humanité, où était aussi l'ami Jean Massier. Nous avons, dit Dominique de Villepin, à l'humanité, le même devoir, arrêter cette escalade meurtrière. Le 7 octobre, ne l'oublions pas, c'était l'attentat du Hamas, vous vous souvenez, c'est 1200 morts et plus de 240 otages. À partir de là, l'engrenage de la violence sans limite, sans proportion, a conduit à Gaza à ce bilan effarant de 40 000 morts, dont 30 000 femmes et enfants, issus de la population civile. Ce bilan, qu'il nous faut regarder en face, dit Dominique de Villepin, est lié à un choix de réponse par la force de la part d'une démocratie soutenue par les États-Unis et par les autres démocraties, alors même que nous aurions la capacité, et c'est ça que je trouve particulièrement révoltant, dit de Villepin, d'introduire de la mesure dans cette réponse israélienne. D'abord parce que nous aidons économiquement Israël, y compris sur les territoires de la colonisation. Ensuite parce que nous apportons à ce pays une aide militaire, c'est particulièrement vrai pour les États-Unis, dit-il. Et nous le faisons en quelque sorte en fermant les yeux sur cet engrenage de la violence dont nous savons qu'il ne peut conduire à rien. Et il a raison aussi. Ceux qui plaident pour continuer la guerre pour aller jusqu'au bout oublient, dit l'ancien Premier ministre, une réalité fondamentale, nous sommes dans une guerre dite contre le terrorisme qui ne peut être gagné uniquement avec le seul langage de la force. Dominique Villepin parle de la position et des actions de la France en la matière, et il dit « On a défendu le droit international en Ukraine, mais que faisons-nous à Gaza ? Ce droit international, depuis 1947, est bafoué au Proche-Orient. La Cour internationale de justice s'est prononcée sur l'illégalité de la colonisation. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Elle a dit son inquiétude sur ce qui pourrait conduire à un éventuel génocide. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. La Cour pénale internationale a mis en accusation des responsables israéliens. Si nous sommes capables de faire gagner la justice à Gaza, c'est tout l'ordre mondial ensuite que nous pourrions refonder. Ce conflit est né avec la création de l'État d'Israël, au lendemain de cet immense traumatisme qu'est la Shoah. Parce que dans cette équation complexe, il faut mettre tous les éléments. Soutenir les Palestiniens, ça n'est pas nier le droit aussi à l'existence de l'État d'Israël, rappelons-le. Dénoncer la colonisation juive et la manière dont certains gouvernements israéliens traitent la question palestinienne, ça n'est pas nier l'État israélien, et ça, Denis de Villepin le rappelle, mais aussi de cette immense injustice faite aux Palestiniens restés sans terre. C'est dizaines de milliers de centaines de milliers de Palestiniens qui ont dû fuir leur territoire lors de la création de l'État d'Israël. Et ça, Dominique de Villepin le rappelle aussi. Reconnaître le droit du peuple palestinien, accepter une solution à deux États, c'est garantir la sécurité d'Israël. C'est la justice qui permettra aux deux peuples de vivre ensemble, Dominique de Villepin, qui appelle la France à reconnaître et à appeler de ses voeux à la création d'un État palestinien. La réponse dans le cadre de la solution à deux États réside dans une administration pour tous les territoires occupés, parce que à ceux qui disent que c'est impossible, Villepin dit si, voilà ce qu'il faut faire. Administration pour tous les territoires occupés, Gaza, Cisjordanie et Jérusalem, administration qui pourrait prendre en main ces territoires le plus tôt possible, sous l'égide internationale, il faut que la communauté internationale s'en occupe, avec une autorité palestinienne rénovée, légitime et crédible, mais ça c'est la communauté internationale de faire son travail, qu'elle ne fait pas, même si c'est très compliqué, avec une force internationale d'interposition. Voilà. Voilà la position de Dominique de Villepin exprimée dans l'Humanité sur ce sujet. Je vous lis un petit peu. Ah oui, mais Twisted Art, ça ne marche pas comme ça. Des paroles, mais pas d'action pour sauver les Palestiniens, ça ne m'intéresse pas, les discours. Je veux que ce qu'il se passe à Gaza s'arrête. C'est très intéressant ce que tu dis, Twisted Art. Un participant actif de cette communauté, mais ce sont les paroles qui déclenchent les actes, ce sont les discours justement qui déclenchent les actes. C'est parce que justement, à un moment, des voix s'élèvent, rappelle-toi les grands pacifistes de l'histoire, Martin Luther King et d'autres, à un moment, c'est parce que des voix s'élèvent que les actes suivent après. Hein. Et alors évidemment, c'est pas Dominique de Villepin qui va arrêter que ses petits bras là, même s'il est très grand, ce qui se passe à Gaza, puis il va sans doute pas aller sur place avec un casque et un fusil. Mais s'il y avait plus de paroles comme celle de Dominique de Villepin au niveau de nos démocraties, peut-être qu'on n'en serait peut-être pas là. Parce que la communauté internationale a une responsabilité dans tout ça. Donc, je ne suis pas d'accord. Oui, le lion d'or. Tu as raison. Quand tu dis Israël colonise depuis des décennies des terres qui ne lui appartiennent pas, c'est ce qu'on appelle la colonisation illégale des territoires palestiniens. C'est un fait, ça n'est pas un... On ne débat pas de ça. Ils ne conçoivent pas le droit international quand il s'agit de leurs intérêts. Les conséquences pour les Palestiniens leur passent au-dessus de la tête. Alors, quand tu dis Israël, moi je pense à l'État israélien, je pense à certains gouvernements israéliens. Je ne pense pas aux Israéliens de manière générale, puisque les Israéliens eux-mêmes sont divisés sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de droite et d'extrême droite qui est au pouvoir. Mais vous savez qu'il y a en Israël, il y a des gens qui veulent la paix depuis toujours. Il y a des gens qui tendent la main aux Palestiniens depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas au pouvoir, quoi. Les Israéliens sont divisés sur ce sujet. Ne les voyez pas comme quelque chose de unique. Je vous lis. Je te lis, mais je vois ce que tu veux dire. Ajar, les territoires palestiniens sont occupés depuis des années et des années. L'ONU ne fait rien de concret. L'ONU ne peut rien faire de concret. L'ONU n'est que la somme des États qu'elle représente. C'est-à-dire que si les résolutions votées par l'ONU ne sont pas respectées par les États ensuite, l'ONU ne peut pas régler le sujet. Le terrorisme est aussi un problème, dit Saint-Loup. Et Taïa répond dessous, certes, mais personne ne dit le contraire. Personne ne dit ici que le terrorisme n'est pas le problème. Relisons ensemble l'interview de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin ne dit pas qu'Israël n'avait pas le droit de répondre aux actions terroristes du Hamas. Et ce qui s'est passé lors de cet attentat meurtrier. Mais qu'en tant que démocratie, il avait, l'État hébreu, une mesure, une retenue à appliquer dans cette réponse pour ne pas tuer à ce jour 40 000 Palestiniens au moins, dont 30 000 femmes et enfants. C'est ce que dit Villepin, en fait. Salut Kiki de Jungle. Mais la Palestine est gangrénée par le terrorisme, dit Mystérieuse, mais certains Palestiniens le dénoncent. Ça. Vous avez des Palestiniens qui dénoncent la mainmise du Hamas sur Gaza, c'est vrai aussi. C'est là où la communauté internationale a un rôle à jouer. Hein. Si moi je... ah oui, WhatsApp. C'est chez moi. Demain... À quelle heure je commence ma revue de presse demain? MVP, c'est à midi. Ouais, je dirais plutôt vers 9h30. Vers 9h30, je vais arriver au studio à 9h, excusez-moi. Je réponds en direct, comme ça les gens ils ont les infos, c'est plus important les gens avec qui je travaille. À 9h. Revue presse demain, 9h30. Voilà. Si, alors, moi, bon, c'est un sujet sur lequel moi, très modestement en tant que citoyen, je réfléchis depuis des années, puisque en tant que journaliste, j'ai confronté à ce sujet du Proche-Orient depuis toujours. Depuis 35 ans. Et je me suis même rendu sur place à une époque, parce que j'en parlais tous les jours dans les JT, à une époque, notamment quand il y avait tous les attentats en Israël. Et donc je me suis rendu à Jérusalem, à Tel Aviv, dans les territoires aussi, sur mon temps à moi, pour comprendre un peu ce qui se passait sur place. Récemment, dans Le Monde, on a lu ensemble il y a quelques mois, un spécialiste des questions internationales qui disait la seule solution, elle peut venir de la communauté internationale. La seule solution, elle peut venir de la communauté internationale. Et il disait, il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est la seule solution. Et je suis persuadé de ça. C'est-à-dire qu'on est dans un sac de nœuds, un nœud gordien hein, qui est impossible à défaire, qui est la situation au Proche-Orient. Hein. Et si la communauté internationale n'intervient pas, massivement, de façon coordonnée, en fait, ça ne se résoudra jamais. Voilà. On a la solution, mais elle est très compliquée. Et donc pour ça, il faut que les pays de la région, notamment les pays arabes, le veuillent. Il faut que les grandes puissances occidentales et non occidentales, donc États-Unis, Europe, Chine bien sûr, Russie le veuillent. Et que les grands pays non alignés, Brésil et autres, le veuillent aussi. Voilà. Et là, c'est ce qu'évoque Dominique de Villepin, c'est-à-dire concrètement une première étape avec une administration pour tous les territoires occupés sous l'égide internationale, avec une autorité palestinienne rénovée, légitime et crédible, là, avec énormément d'efforts, d'intensité, dans un effort qui va durer, ça ne va pas se faire en 15 jours, ça va durer des mois, peut-être des années. Ben là, il peut se passer quelque chose. Voilà. Mais bon. Quel intérêt, finalement, pour ces puissances-là, voilà. Qu'est-ce que ça va changer qu'est-ce que ça va changer pour ces pays dont on parle, que finalement, deux peuples arrivent à vivre en coexistence pacifique, hein. Ils n'ont pas... Soyons cyniques. Est-ce que ça va changer la vie des Russes, des Chinois, des Européens, des Américains, vraiment, si la paix était enfin imposée dans cette région du monde? Pour eux, ça ne va trop rien changer, quoi. Donc l'intérêt, il n'est pas immédiat, il n'est pas urgent. Donc on en parle, et puis après, on détourne les yeux, quoi. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que ce chercheur, il y a quelques mois, disait « c'est la seule solution, et pourtant, elle est, il y a peu de chances qu'elle soit mise en œuvre. » Waouh, on en est là aujourd'hui. Et ça, j'aurais pu vous le dire il y a 30 ans, déjà. Parce que je suis vieux, et qu'il y a 30 ans déjà... D'ailleurs, à l'époque, on parlait beaucoup plus du Proche-Orient dans les médias, parce qu'à une époque, il y a eu un espoir de paix, il y a eu un processus de paix qui allait très loin. Et puis, le camp de la violence, le camp de la haine, le camp de la guerre l'a gagné, assassinat d'Itzhak Rabin, etc., etc. Et puis, ce processus de paix, il a tellement reculé qu'un jour, on n'en a plus parlé. Mais à une époque, il y avait un vrai espoir de paix dans la région, parce qu'il y avait des gens de chaque côté, arabes, israéliens, palestiniens, israéliens, qui voulaient la paix. Et on a failli y arriver. Et puis ça a échoué. Donc, disons-nous, si on veut être positif, qu'à une époque, ça a été possible. Alors, est-ce que ça redeviendra possible un jour? Je ne sais pas. Salut, Yannick. Et bisous ta grand-mère. Merci, Frandet, pour le soutien et pour ton petit message. Voilà. Voilà, donc, ça fait... Bon, moi, je vous dis, ça fait 30 ans que je réfléchis à cette question. Peut-être que de mon vivant, je vivrai la fin de ça. Ou peut-être pas. Espérons. En tout cas, voilà pour cette actualité, cette interview de Dominique de Villepin dans l'Humanité, où l'ami Jean Massier était en live et d'où l'Humanité a lancé sa chaîne Twitch. On en parlera tout à l'heure parce que l'Humanité est arrivée sur Twitch. Revenons à la politique en France. Incroyable surprise. Je suis tombé des nues, je suis tombé de ma chaise ce matin. Heureusement, je ne suis pas très grand, je ne me suis pas fait mal ce matin. Il y a des premières tensions entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup, Frandet. Merci encore, Frandet. Ah non, c'est WhatsApp, ça. Qui aurait pu prédire ça? C'est défécateur. J'adore mon WhatsApp ouvert parce qu'il se passe des choses dans ma vie. Ok, super. Tout va bien. Incroyable! C'est fou! En fait, ben, cette idée finalement de nommer un premier ministre de droite après les législatives, là, ben, pour l'instant, ça marche moyen. C'est quand même une surprise assez incroyable. Première tension, écrit le Parisien ce matin, vendredi, lors de leur entretien consacré à l'architecture gouvernementale, parce que le gouvernement n'existe toujours pas, il faut nommer les ministres. Le président a rappelé au premier ministre que les termes de son communiqué de nomination évoquaient un gouvernement de rassemblement. Président Macron a donc nommé un premier ministre de droite pour créer un gouvernement de rassemblement. Le problème, c'est justement c'est cette phrase. À partir de là, c'est compliqué. C'est pas possible, cet humour caustique de Samuel Etienne, c'est intolérable en fait. Alors que les Républicains LR continuent de peser de tout leur poids pour entrer en force dans le futur gouvernement, ah oui, c'est très étrange, les gens de droite qui veulent rentrer dans un gouvernement qui est un premier ministre de droite. C'est quand même une surprise étonnante. Et puis, inversement, il y a plein de gens de gauche sollicités qui disent « Bah non, bah, je ne veux pas rentrer dans ton gouvernement avec un premier ministre de droite. » Ce qui est incroyable, ce qui est vraiment une surprise incroyable. C'est vraiment très étonnant comment ça se fait. Le chef de l'État entend plaider pour la formation d'une coalition. Une plateforme de gouvernement qui, selon lui, devra aussi compter en son sein des socialistes, des écologistes, qui à un moment peut-être voudront nous rejoindre, dit le président Macron. Ce n'est en aucun cas, rappelle-t-il, à qui veut l'entendre en ce moment, un gouvernement majoritaire ni une cohabitation, puisque le président Macron, il rappelle à ses interlocuteurs en ce moment que le Premier ministre, qu'il a nommé lui, vient d'une famille politique qui a 47 députés. Ah bah oui. Mais le président Macron, il dit à Barnier, bah attends, faut pas que tu fasses un gouvernement de droite parce que tu viens quand même d'une famille politique qui n'a que 47 députés. Bah oui, c'est vrai. Bah pourquoi tu l'as nommé alors? Peut-être. Je pose la question, j'ouvre le débat, je ne sais pas moi. C'est peut-être ça le souci, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que je ne comprends pas. Voilà. Et que le premier soutien parlementaire à ce Premier ministre, ce sera plutôt les macronistes. Et ça, Macron le rappelle. Voilà. Or, l'appétit décuplé ces derniers jours de Laurent Wauquiez, le président LR, et des siens, donc les élus de droite, doublé du sentiment que Barnier était plutôt OK pour ça, a fatigué dans les couloirs du palais. Donc à l'Élysée, on est en train de se... On est surpris parce qu'il y a plein de gens de droite qui veulent entrer au gouvernement et que les gens susceptibles d'être de gauche et de rentrer au gouvernement, ils sont pas trop chauds, ce qui est quand même une surprise gigantesque. C'est très étonnant. Je sens que les Républicains sont un peu gourmands, le président va devoir se battre pour les siens, souffle l'un de ses proches. Voilà, on en est. Ce qui est vraiment très, très bizarre, cette situation. Vraiment, c'était vraiment totalement inattendu. Voilà. Mais parce qu'il n'a aucune obligation de nommer un Premier ministre à la majorité de l'Assemblée. Oui, bien sûr. Ouais, la Constitution ne lui oblige pas. Il aurait pu nommer moi, il aurait pu nommer Michel Platini, il aurait pu nommer Léon Marchand, il aurait pu nommer, je ne sais pas moi, comment s'appelle celle qui fait la dame qui chante, qui a les cheveux comme ça, là, qui est souvent sur les plateaux sur C8, là, avec les cheveux frisés. Là. Non, pas Catherine Laborde. Affida Turner, il aurait pu nommer Affida Turner aussi. Ou moi, ah non, j'aurais refusé moi. Ou Thomas Pesquet, ou Yvette Horner, je crois qu'elle est morte poète. Bah, si Giresse pour le soutien. Donc, ouais. Donc voilà, je sais pas qui est issu de ça. Des élections législatives provoquées par une dissolution, on n'y fait ni affaire. Bon. Le président Macron avait une majorité relative, il a dit tiens, je vais faire une dissolution, comme ça j'aurai plus toute majorité. Bon, ça c'est vraiment le move de l'année. Ensuite, un groupe de gauche, NFP, qui arrive en tête, mais on nomme pas Lucie Castet, parce que bah non, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont démonter tout ce que j'ai fait. Bah oui, ils sont de gauche, oui. Le RN, premier parti, non, parce qu'en fait, le RN, non. Et puis en plus, ils ont pas d'alliés. Ouais, ok, d'accord. Donc, il reste quoi? Je vais nommer un mec de droite. Ouais, mais ils ont 47 députés. Bah, c'est pas grave, ça va marcher. Bah non. Voilà, on en est là aujourd'hui. Je vous ai résumé ça en 30 secondes. Ça va être compliqué. Moi, je pense que la seule solution, c'est la prochaine présidentielle, mais elle arrive qu'en 2027. Sauf s'il démissionne. Ouais. Vous voyez une autre solution, vous? On va bien attendre 10 mois? Mais 2027, c'est pas dans 10 mois, les gars, et c'est dans 3 ans. Destitué? Impossible. Impossible. C'est impossible, la destitution. Les règles de la destitution sont extrêmement claires. En aucun cas, même si la procédure était engagée, ça pourrait aller au bout. Donc, démission. Il n'y a que ça. C'est peut-être ce qui va se passer. Hein. Sinon, on part pour 3 ans, un peu bizarre. Ou alors... soyons optimistes un petit peu. Ou alors... Il y a un changement de comportement, de paradigme dans la classe politique française qui part d'un ancien fait majoritaire où en gros il y a eu alternance du pouvoir entre la gauche et la droite avec des majorités claires et lisibles pour soutenir des gouvernements, donc offrir une forme de stabilité à l'action politique. Et prenant acte de cette explosion du paysage politique français, non pas entre deux grandes familles mais en 3 ou 4, on va dire la gauche, le centre droit, les macronistes, l'extrême droite et on va dire ce qui reste de LR, on va dire 3-4 familles, eh bien, ces gens se disent « Ok, on n'est plus personne à la majorité, eh bien, il faut qu'on apprenne à gouverner ensemble et à former des alliances entre partis, en se mettant d'accord sur un programme de gouvernement. Hein, on se réunit et on discute. Bon, bah, ça, oui, ça, non. Et comme plein de régimes parlementaires le font. Et on prend acte de la nouvelle donne politique et on essaie de faire ça. Voilà. Ce qui est très compliqué hein, dans les pays parlementaires, c'est très compliqué, les alliances, C'est parfois un bordel sans nom. C'est très compliqué en Allemagne actuellement. C'est toujours été compliqué en Belgique. Israël, c'est un régime parlementaire, c'est aussi un enfer. Donc, ça n'est pas le bonheur que certains nous promettent. Mais à un moment, il faut tirer les conclusions d'un nouveau paysage politique décidé par les Français. Voilà. Mais en France, effectivement, comme le dit Dark Craziel, pour l'instant, c'est une utopie parce que les partis sont comment on dit, obnubilé par l'élection présidentielle et la victoire. Et donc, pour gagner la présidentielle, il ne faut surtout pas copiner avec les autres. Merci. Merci encore, Géros. Oh non. Oh, on a une commande de repas pour ce midi. Putain, mais j'ai mis ça à combien de points de chaîne ? Oh, c'est trop mignon. Alors, il y a des nouveaux points de chaîne. Il y a des nouveaux points de chaîne qu'on a définis aux The Event, c'était un donation goal. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a un nouveau... Alors, je crois que c'est énorme, pourtant, on a mis combien de points de chaîne ? Je crois qu'on a mis à 500 000 points de chaîne, non ? C'est combien la bouffe ? C'est combien pour le repas ? 500 000. Pour 500 000 points de chaîne, ce qui est énorme, vous pouvez décider de mon repas du midi. Et regardez, il y a quelqu'un qui vient de dépenser 500 000 points de chaîne, c'est GR95. Donc ça m'a fait manger une pizza hawaïenne la semaine dernière, comme cette histoire. Et regardez le message qui est trop adorable. Mange ce qu'il te fera plaisir. Je te suis depuis les matinales d'Europe 1. Waouh, c'est, wow, c'est vieux ça. J'étais triste de me réveiller sans tes infos quand tu es parti. Oh, trop content de te retrouver dans cet univers. Waouh. C'est trop chou. Alors ça tombe bien parce que j'ai un déjeuner ce midi avec un collègue journaliste qui est Julien Pain, qui est quelqu'un qui fait un travail qui est très éreinté par d'ailleurs des gens sur les réseaux sociaux parce que Julien il fait un travail sur les fake news, la désinformation donc pendant la crise sanitaire ou sur Trump, sur d'autres trucs et donc du coup il y a toujours des gens qui le prennent à partie et Julien Pain vient de se lancer sur Twitch, vient de créer sa chaîne Twitch, Julien, et du coup, bah, on déjeune ce midi. Donc ça m'arrange bien que GR95, dans sa grande mensuétude, sa grande gentillesse, en fait, dépense ses points de chaîne pour me laisser manger ce que je veux. Voilà, parce que du coup, je vais manger avec... Mais tu sais ce que j'aurais fait ? Si tu m'avais imposé un repas, Gerg, je serais allé manger avec Julien, j'aurais commandé ce que tu m'aurais imposé de manger... Enfin, dans la limite du mangeable, quoi. Hein. J'aurais mis la photo sur les réseaux sociaux. Voilà. Non, je vais manger du pain. Je mange avec Julien Pain. Ça va pas du tout, quoi. Voilà, et les modos ont mis la chaîne de Julien Pain là-haut. N'hésitez pas à la suivre. Elle vient d'être créée. Et moi, je vais la suivre aussi. Voilà. Comme ça, on lui fera peut-être un raid un de ces jours. Pain, est-ce que c'est proche de Kamala Harris ? Parce que Harris, pain de mie, hein, c'est ça ? Herbabache, c'est ça la blague ? Pain, Julien Pain, Kamala Harris, Harris, pain de mie, tranché, tout ça. Sérieux, vous en êtes là ? Mais sérieux ? Et du coup, boulanger ? Ok. Oh là 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 là, quel enfer. Oh non, je vous m'avez perdu là. J'en peux plus là. Julien Pain, Kamala Harris, boulanger. Le triptyque, quoi. Oh non, putain ! Gerta ! Mais t'as combien de points de chaîne ? J'ai regardé, redépensé 500 000 points de chaîne pour m'imposer un steak frites ? Oh merde ! Je mange quasiment pas de viande. Et je mange jamais de frites, j'ai du bedou. Oh non, Gerg ! Oh non, je peux pas poster ça sur... Oh non, en plus, je peux pas poster ça sur les réseaux. Putain, je vais me faire... Non. Oh non. Oh non, Gerg. Ah, remarque. Attends. Ah, t'as pas dit steak de quoi ? Un petit steak de thon ? Un petit steak végé ? Ha ha ! T'as pas précisé. T'as dit steak. Top, c'est parti. Let's go. Ok. La fausse bonne idée, c'est donation goal. Ouais, en vrai, c'est drôle. Non, c'est marrant. La pizza hawaïenne de vendredi dernier, je m'attendais pas. Bonjour, est-ce que vous avez un petit steak de soja, s'il vous plaît ? Putain, j'en peux plus des présentateurs, les animateurs, là. Leur bouffe de merde. Je pense au garçon tout à l'heure qui prendra ma commande. Ah, des frites de patates douces. Oh oui, t'as pas dit des frites de pommes de terre ? Oh, ça peut être des frites de haricots verts ? Bon, attends, je prends en photo. Ah non, ah oui, on va se retrouver avec un steak de thon. Et avec des frites d'haricots verts. Ok, let's go ! J'en mange de la viande de temps en temps. Mystérieuse. Mais je remange quasiment plus. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en manger autant qu'avant. Voilà. Donc, bah, il faut des protéines un petit peu, mais j'en mange quasiment plus. Voilà. Moi, j'aime bien le poisson, j'aime bien les légumes. J'aime bien les Crisp Rolls. Et le fromage. Voilà. Et l'eau. Je bois beaucoup d'eau, maintenant. Si je claque mes points de chaîne et je t'impose de manger une galette complète, ça se passe comment? C'est cumulatif? Ah bah non, pas au même repas. Mais pour le prochain, quoi. Et la bière. Oh, oh, oh. Pas tant que ça, pas tant que ça. Le repas atroce. Attends, Albin, bah. Tu ouvres un paquet de Crisp Rolls. Tu te fais une petite provision de Babybel. Tu ouvres les Babybel. Tu coupes le Babybel en deux. Dans le sens de, tu vois, de, comme ça. Dans le sens de la longueur, comme ça, la longueur. Et après, tu recoupes par le haut. Ça te fait quatre petits bouts de Babybel. Tu prends deux des quatre bouts, tu mets sur un Crisp Rolls. Ça te fait un truc de fou. Tu prends les deux autres bouts qui restent du premier Babybel, tu les mets sur un deuxième Crisp Rolls. Ça te fait deux Crisp Rolls au Babybel. C'est une dinguerie. C'est... Comment ça, quelle vision d'horreur? C'est super bon. Il faut garder le truc rouge, par contre, pour le goût. Non, moi, j'enlève l'enveloppe. J'adore. Mmh. Bacalao! Mais je connais ça. Non, attends, je vais augmenter les points de chaîne. Il y a quelqu'un qui va débourser 500 000 points de chaîne pour bacalao. Bacalao, c'est la morue, ça. C'est portugais, ça. Ou brésilien. Putain, mais je... Alors, c'est au cabillaud. Bah oui, la morue, c'est du cabillaud. La morue, c'est du cabillaud. La morue, c'est la cabillaud, mais séchée. Avec du sel. Ça, c'est un type d'Elidia. Elidia, elle n'est pas portugaise, elle est turque. Et Toto Barjo, tu racontes n'importe quoi, de Dieu. Bah, je suis fils de poissonnier, si tu veux, donc vous n'allez pas me la faire sur le poisson. Hein. Ouais. Alors, comment ça, mais, alors, monsieur Etienne, vous avez pris 30 kilos cette année. On ne vous reconnaît plus. Voilà. Dans les milieux autorisés, on vous appelle la pyramide maintenant, parce que vous êtes à peu près comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, c'est con, c'est un donation goal qu'on a créé avec la commu au The Event. Et j'ai eu une bonne idée, enfin, qui n'était pas une bonne idée en vrai. Les viewers ont pu commencer à décider de mes repas pour 500 000 points de chaîne, ce qui était énorme. Mais en fait, ça a été tous les jours et on m'a fait manger du bacalao, des steaks frites, des pizzas hawaïennes et voilà. Ça, c'est. Voilà. C'est une catastrophe. Bon, quelle heure il est? Je me dépêche quand même. En vrai, augmente les points. Ça va. Pour l'instant, ça va. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire pipi ou pas? Non, je vous lis ça. Je vous lis ça et après, j'irai faire pipi. Et me faire un petit café. Alors ça, c'est un truc sur le... J'ai vu ça dans la presse ce matin. Je me suis dit, ouais, la Commission européenne, le départ de Thierry Breton, ouais. Et en fait, si, je me suis mis à lire le truc et l'histoire est assez... incroyable. Donc Thierry Breton, le français, quitte la Commission européenne, ça se passe pas très très bien. Il y a plein de polémiques. Les dessous d'un départ surprise. Thierry Breton quitte la Commission sur fond de tension avec Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Épilogue brutal, écrit Le Parisien, d'un bras de fer intenable à Bruxelles, Thierry Breton a annoncé ce lundi avec fracas qu'il démissionnait avec effet immédiat de son poste de commissaire européen. Ferrare, il a publié sur X, hein, sur Twitter, sa lettre de démission, mettant directement en cause la présidente de la commission Ursula von der Leyen, fustigeant sa gouvernance douteuse et déplorant les raisons personnelles qui auraient poussé celle-ci à réclamer sa tête au président Macron. Depuis des mois, une sourde lutte d'influence opposait le centriste français à la conservatrice allemande. C'est ce mardi même à Strasbourg que von der Leyen devait présenter aux eurodéputés les postulants désignés par les États pour le nouveau collège de commissaires à la suite des élections européennes du 9 juin. Dès le 28 juin, c'est incroyable ça, dès le 28 juin, le président Macron avait émis son souhait de reconduire Thierry Breton à son poste, qui est un poste très important de commissaire européen. Donc ça, c'était le 28 juin. Breton qui occupe depuis 2019 un méga portefeuille stratégique qui inclut le marché intérieur, le numérique, la défense, un énorme portefeuille quoi. T'es sûr que c'est passionnant? Ça sent un petit poéticienne. Ah non, c'est passionnant, tu vas voir les canons. Malgré l'inimitié notoire, merci Piracis pour le prêt. Je pense que j'ai mal prononcé, mais merci en tout cas. Entre le commissaire sortant et sa patronne, Donc Breton et von der Leyen, ils ne peuvent pas s'entendre. Hein. Ça ne va pas du tout. Le chef de l'État, satisfait du bilan du français à Bruxelles, gestion des achats de vaccins groupés pendant le Covid, coordination de l'aide militaire de l'Union européenne à l'Ukraine, défense du modèle européen face aux géants du numérique américain et chinois, confirmait son choix par un courrier adressé au cœur de l'été. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Le président Macron, content du bilan de Thierry Breton à la Commission européenne, signifie à Bruxelles qu'il veut que la France est OK pour que ce soit toujours lui. Bon. Mais voilà, la bataille Breton-Von der Leyen devenait problématique pour la France, souffle un diplomate, bon, ils peuvent pas s'encadrer les deux. Merci Kurtz pour le prime, c'est adorable. L'Elysée, en catastrophe, a donc, merci Kurtz pour le prime, c'est adorable. L'Elysée a décidé de proposer, et c'est là le problème, dénoncé par Libération, vous allez le voir, Stéphane Séjourné, à la place de Breton, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, patron du Parti Renaissance et proche du président Macron. Merci Natax pour le prime, vous êtes... Merci pour vos primes, en vrai. Selon un connaisseur du dossier, alors qu'Ursula von der Leyen avait abattu ses cartes sans embâge, et elle a dit à la France, elle a dit que du prime... je prends le prime, moi. Faites péter vos primes. Le prime, je prends. D'ailleurs, ceux qui... Merci au Aria pour le prime. Ceux, salut le Picard. Ceux qui font don de leur prime, là, vous êtes au prime, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Voilà. Comme dit Sugar Frog, lâchez vos primes qui dorment. Trop mignon. Alors, von der Leyen, elle a dit à la France, écoutez, soit vous gardez Macron, mais vous aurez un portefeuille moins gros, soit je vous donne un gros portefeuille, mais vous me virez Breton. Merci le fanatique pour le prime, merci Quadrio pour le prime, vous êtes trop gentil. Emmanuel Macron, dit le Parisien, qui a déjà perdu de sa superbe sur la scène européenne après le revers du 9 juin depuis la dissolution, aurait donc préféré transiger et il a lâché Breton. Merci le fanatique, merci Quadrillo, merci It's Lobo pour le prime. Bande de prime, bah. Et il a donc lâché Breton pour séjourner. Et vous allez voir, c'est ce que lui reproche Libération, qui consacre même, ça m'a surpris sur le coup, mais merci The Dream 77 pour le prime, c'est incroyable. C'est trop mignon, merci pour les primes. Qui consacre même sa une Libération à cette histoire, hein, qui met en lumière la perte d'influence de la France à Bruxelles, la fébrilité d'Emmanuel Macron qui cède face à Ursula von der Leyen pour placer un de ses proches, Stéphane Desjourné. Qui a tué Thierry Breton ? Vous voyez, s'interroge Libération, qui n'est pas très content de cette histoire et qui dit que Macron n'a pas été à la hauteur. Merci Bebels pour le prime. C'est incroyable. Je crois que sur cette chaîne, je n'ai jamais parlé des primes en disant « Ah si, lâchez vos primes, c'est bien et tout. C'est gratuit pour vous, pour nous, c'est super et tout. » Et là, ça claque du prime en pagaille. Jamais dans l'histoire européenne, écrit Libé, un grand pays comme la France n'avait changé ainsi de cheval au dernier moment. Hein. Ce coup de jarnac souligne à la fois la fébrilité, la faiblesse d'Emmanuel Macron, merci Skybao pour le prime, qui ne semble plus rien maîtriser, écrit Libé, y compris dans les dossiers où il a montré un indéniable savoir-faire au cours des 7 dernières années, comme l'Europe. Un prime qui dort, c'est un streamer qui meurt, dit only Zeus can judge me. Après avoir dissous l'Assemblée, Macron a décidé de dissoudre Thierry Breton, résume, amuser un député allemand. Que s'est-il passé ? L'éviction de Breton, commissaire chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du tourisme, du numérique, de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace, c'est un énorme commissariat, avait été demandé à plusieurs reprises par Ursula von der Leyen, qui déteste cette forte tête de Français, qui n'a pas hésité à lui mettre des bâtons dans les roues et à critiquer publiquement Ursula von der Leyen pour ce mode de gouvernance autoritaire. Ursula von der Leyen, qui aurait fait valoir au président de la République que le père de la législation réglementant les plateformes numériques, Thierry Breton, hein, connu sous le nom de DMA, DSA, avait de trop mauvais rapports avec les entreprises américaines. Merci Spency pour le prime. Ce qui risquait de compliquer la relation transatlantique, surtout en cas de réélection de Donald Trump. Ah ! Alors, il n'était pas assez pro-américain. C'est extrêmement clair. Ursula von der Leyen estimait que Thierry Breton n'était pas assez pro-américain, il n'était pas assez gentil avec l'entreprise américaine, notamment avec ces géants du numérique, là, Breton qui disent « Ah, il faut un petit peu encadrer tout ça, il faut des règles. » Et von der Leyen lui dit « Mais c'est pas bien, puis surtout si Trump est réélu. » Oula, ouh, d'accord, ok. Elle fait ici allusion à la partie de bras de fer engagée cet été par Thierry Breton, le commissaire européen, avec le libertarien Elon Musk, patron de X, accusé de violer la loi européenne. Il faut voir là le tropisme américain d'Ursula von der Leyen. Voilà. C'est un peu ce que dit Libération aussi, parisien d'ailleurs. Qu'est-ce que dit la suite de l'article? Ah, viens par là, toi. Ah! Pourquoi j'arrive pas à zoomer? Excuse-moi de crier. Ah. Depuis la dissolution ratée de l'Assemblée, merci Xela pour le Prime. C'est trop gentil. Emmanuel Macron est en position de faiblesse politique et Ursula von der Leyen le sait parfaitement, jamais écrit Libé. Elle n'aurait osé se lancer dans une telle négociation avec un gouvernement français fort. Eh oui, vous voyez. En fait, on se rend compte que la dissolution ratée et la situation politique en France, elle affaiblit aussi la France sur la scène internationale. Ah, c'est Poney Club qui avait dit ça ? C'est incroyable. Je vous lis, je suis en train de vous lire. Qu'est-ce que j'entends là ? Un petit bruit de moteur à côté. Ouais. Donc voilà. Après, c'est pas une très bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent la modération des grands réseaux sociaux, des grandes plateformes américaines. Merci Crooks. Merci pour le message. Train de la hype, vous m'avez aidé. Déclencher un train de la hype. Merci Elias pour le prime à l'instant. Justement, on va parler un petit peu de Twitter, de X et de son patron Musk ce matin. Alors d'abord, l'Australie. Voilà, c'est Musk et l'Australie, ça s'engueule. Oui, il y a train de la hype, exactement. Ouais. Je n'ai pas compris grand-chose, mais je suis là. Salut Arden, moi je suis le train de la hype, je n'ai jamais compris, t'inquiète. Elon Musk et l'Australie s'écharpe sur la responsabilité de X, le patron du réseau social, conspue le projet de loi de Canberra, donc de l'Australie, sur la désinformation. Vous allez voir, ça s'engueule. Merci Staphenix pour le prime, merci beaucoup. C'était le 13 septembre dernier, le ministre des services publics australien, Bill Shorten, a accusé le propriétaire du réseau social X, Musk, d'avoir, à propos de la liberté d'expression, davantage de position que n'en a le Kama Sutra. Ça rigole pas en Australie. Le ministre australien des services publics, il accuse Musk d'avoir, à propos de la liberté d'expression, davantage de position que en a le Kama Sutra. Ça rigole. Hein ? Ça rigole. La veille, le milliardaire avait qualifié les décideurs australiens de fascistes. Donc tout le monde est en forme de chaque côté. Hein. Voilà. Le ton est monté, pourquoi ? Après que Canberra a présenté, puisque la capitale administrative et politique de l'Australie, ça n'est pas Sydney, ça n'est pas Melbourne, c'est Canberra, tout le monde le sait, a présenté le 12 septembre un projet de loi pour lutter contre la désinformation. Merci beaucoup Herzoled pour le soutien. Merci Culotte Côte pour les bits, tu rigoles. Merci Stéphanix pour le prime. Merci Esmine pour les bits. Merci à tous. Ce texte contre la désinformation prévoit que l'Australie imposera aux plateformes d'Internet des amendes pouvant atteindre 5% de leur chiffre d'affaires si elles ne parviennent pas à empêcher la propagation de fausses nouvelles en ligne. Les partisans de Musk, et il y en a dans ce chat, vont me dire « Samuel, non, ce n'est pas pour lutter contre la désinformation, c'est de la censure. » Bon, je préchote le truc. Cette initiative vise à protéger la santé publique, la sécurité des citoyens et l'intégrité des élections. Vous savez que certains petits malins, notamment de certaines puissances étrangères, s'amusent à tenter de peser via les réseaux sur les élections d'autres pays, ce qui est un fait avéré. Évoquant une responsabilité sociale des réseaux, responsabilité sociale des réseaux, moi je valide, le chef du gouvernement travailliste, Anthony Albanese, a déclaré « Si Musk ne comprend pas ça, cela nous en dit plus sur lui que sur mon gouvernement », réplique du milliardaire, les fascistes d'extrême gauche adorent la censure. Ce qui est un grand classique que je lis ici aussi. Hein. Tenter d'encadrer les réseaux et la violence sur les réseaux, ça n'est pas protéger les gens, c'est censurer. C'est exactement ce que dit Musk. Les fascistes d'extrême gauche adorent la censure. Lors d'un référendum organisé en octobre 2023 sur la reconnaissance constitutionnelle des aborigènes, par exemple, à travers la création d'un organe consultatif, je vous en avais parlé de ça. L'Australie, hein, qui a maltraité les aborigènes depuis l'arrivée des colons dans ce pays, eh bien, à un moment, avait voulu reconnaître cette faute et créer un organe consultatif sur le sujet, sauf qu'il y a eu un référendum et le non l'avait emporté. Donc c'est un vrai progrès en direction des aborigènes, mais le peuple australien avait dit non au référendum pour cet organe consultatif Et la campagne avait été marquée par les rumeurs les plus folles sur Internet, sur les réseaux, distillant la peur et le doute chez les citoyens. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ce qui était annoncé comme un oui est devenu un non. En quelques mois de campagne, l'opinion s'est ainsi retournée. Ce n'est évidemment pas le seul facteur qui explique les résultats des référendums, loin de là, mais les plateformes ont un impact, explique un professeur de communication de l'université de Sydney. Je vois la fin de l'article du Monde, signé de la correspondante à Sydney du Monde, qui s'appelle, comment Isabelle ? Isabelle Delarba. Pourquoi ? Ah oui, quand je zoome, ça zoome sur la pub, c'est top. Voilà. Putain, j'ai fait grosse pub pour le CIC là. Let's go. En menaçant de sanctionner financièrement ces plateformes, à l'instar de l'Union européenne, l'Australie espère qu'elles reconnaîtront la souveraineté des juridictions dans lesquelles elles opèrent et collaboreront sans qu'il soit nécessaire de leur imposer des amendes. Je pense que sous la direction de Musk, Twitter préfère jouer à capable ou pas capable. Cap ou pas cap. C'est une analyse des Australiens, hein, avec les régulateurs en disant « Eh bien, nous ne nous conformerons pas à ces lois ». Voyons ce que vous allez faire à ce sujet. Voilà. Canberra prévoit également d'interdire les réseaux sociaux au moins de 14 ans, voire au moins de 16 ans. Voilà. Je trouve que c'est pas une dinguerie. Merci pour le train de live de fou. Merci Noxil pour les beats. Merci Fabien pour le 26e mois. Merci Loulou pour les beats. Merci Erzoled pour le soutien. Merci encore Culotte Courte, Staphanix et Esmine. Voilà. Alors, je vous lis maintenant sur le sujet là. Musk, la régulation des réseaux sociaux. Le problème, c'est pas forcément Musk, mais plutôt comment les utilisateurs utilisent X et les réseaux de manière générale. Oui, avec. C'est pour ça qu'il faut de la modération. En fait, contrairement à ce que certains pensent, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Et on n'a pas le droit de dire, notamment, de déformer l'information, de faire de la désinformation. Voilà. Il est devenu courant de pouvoir dire n'importe quoi sur X sans que ce soit modéré. Je prends un exemple concret. C'est un parmi les dizaines ou les centaines de messages que je peux lire sur mon compte sur cet adorable réseau qui est Twitter un peu tous les jours. Récemment, quelqu'un a tweeté en disant juste avant le The Event, on peut le retrouver d'ailleurs. Je vais essayer de le retrouver. C'était sur le Proche-Orient et sur ce qu'a fait Bagheera. Où il est mon Twitter ? Il est là. Qu'est-ce que je vais taper ? Je vais vous trouver ça normalement deux secondes. Et c'est un tweet qui n'a pas été modéré, qui est toujours là, qui est toujours qui a été contesté par personne, ou presque. C'est un exemple, c'est un tout petit exemple pour vous montrer qu'on peut dire n'importe quoi sur Twitter et que ce n'est pas modéré. Est-ce que je le retrouve ce truc-là ? Non, je ne le retrouve pas. Ah si. Ah oui, ok. Je l'ai trouvé. Voilà. Donc, il y a un gars qui écrit le... C'était quand ? En août. Bon bref, c'était sans doute après l'annonce de ma participation au The Event. Et qui écrit ça ? Le très sioniste Samuel Etienne qui va croiser Bagheera dans les couloirs du The Event. Bagheera dit cette personne, affirme cette personne, qui est ban de notre chat Twitch, depuis son événement caritatif pour la Palestine. Donc ce monsieur affirme que je suis sioniste, qui est une façon de dire que je ne soutiens pas les Palestiniens. Et que Bagheera va me regarder bizarrement au The Event, puisque Bagheera a fait un incroyable événement pour soutenir les civils palestiniens, et que du coup, elle va me regarder très bizarrement. Bon. Ça n'est pas corrigé. Alors, je ne réagis pas à ça, parce que, en fait, il ne faut pas donner de la visibilité à ça, bien sûr, ça ne sert à rien, je ne fais rien. Il y a quelques personnes qui commentent, par exemple, et qui sont un peu surpris. Voilà, à un moment quelqu'un dit « Mais Samuel Etienne est sioniste et est-ce que c'est le même mec ?» Et le même mec répond « Non, mais il est un peu dans cette posture dégueu de dire « Je ne prends pas position sur le sujet, alors que j'en parle quasiment tous les jours. » Et il y a quand même un mec qui répond Samuel Etienne qui a lui-même participé à ce fameux event de Bagheera, puisque très gentiment Bagheera m'a accueilli dans cet event et j'ai streamé effectivement pour cet événement pour collecter de l'argent pour soutenir les civils palestiniens. Et donc rappelle qu'en fait j'ai participé à cet event et que du coup j'aurais ban Bagheera alors que je lui ai demandé à Bagheera si je pouvais participer à son event, ce que j'ai fait. Et qui rappelle que j'ai donné 5000 euros aussi à l'event de Bagheera. Voilà. Et alors, le gars répond. Voilà. Il dit, attends, je vérifie un truc. Ou deux, parce qu'on on lui met un peu le nez dans le caca. Voilà. Et évidemment, il répond, ouais, c'est bien ça, je m'en bats les couilles. Voilà. Et en fait c'est ça le problème. Twitter, c'est ça. Et ce truc est là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu lis pas les commentaires, bah, tu pars du principe que Bagheera est fâché contre moi parce qu'en fait, je dénonce l'événement qu'elle a organisé pour les Palestiniens alors que j'ai tout fait pour y participer et que j'y ai participé. Mais sauf que ce tweet, il existe. Et il n'est pas modéré, il n'est pas supprimé, il n'est pas corrigé. Et en fait, quand quelqu'un me dit « Ah, mais non, ce que vous appelez de la modération, c'est de la censure », ben non, en fait, la modération, c'est empêcher ce genre de tweet. Et c'est rien, ça, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est rien du tout par rapport aux dingueries qu'on peut lire sur X. Mais c'est un tout petit exemple. Voilà. Et c'est comme ça, tu devrais néanmoins signaler ce tweet. Mais dans ce cas-là, je devrais signaler des dizaines de tweets tous les jours. C'est-à-dire que tous les matins, je vois des dingueries comme ça. Mais c'est normal quand tu es une personnalité publique. N'importe quelle personnalité publique vit ça tous les jours. Donc, à un moment, j'ai autre chose à foutre. J'ai pas le temps. Voilà. Donc, et j'en arrive à moi, mon sentiment sur le sujet, c'est donc à la puissance publique de créer des règles, de créer des lois qui s'imposent à des acteurs privés, puisque là, on parle d'entreprises privées, pour qu'elles respectent les lois censées protéger l'intérêt général. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'a fait l'Europe, c'est ce qu'essaye de faire l'Australie, c'est ce que vient de mettre en place le Brésil, je crois. Attends, c'est le Brésil ? C'est le Brésil qui vient de couper Twitter ? Carrément ? Voilà, ça va même très très loin. Suspendu X, je crois. On va voir ça dans un instant. Voilà. Et ça n'est pas de la censure. Ben, c'est juste à un moment le respect des lois, quoi. Donc tu ne peux pas, dans une démocratie, tu ne peux pas désinformer, tu ne peux pas exprimer un mensonge comme celui qu'on vient de voir à l'instant, là, par exemple. Et ça, moi, ce genre de tweet, j'en lis tous les jours et je n'interviens pas parce que d'abord, je n'ai pas le temps. C'est des trucs comme ça, j'en lis tous les jours, sans arrêt. Et en vrai, j'ai pas le temps. Et puis, ça va, j'ai le cuir un peu tanné, je suis un vieux machin et en fait, aujourd'hui, ça me fait plus rien, si vous voulez. Je réagis pas, j'interviens pas, je bloque plus. Je suis plutôt en mode unban que ban maintenant. Allez-y, les dingos, j'en ai rien à foutre. Je surveille juste, et pourquoi je suis sur Twitter d'abord, parce que c'est un outil d'information, tu vois des infos sur Twitter que tu ne vois pas parfois ailleurs, que c'est un outil de communication, notamment pour les créateurs de contenu, pour dire ce qu'ils font, donc il y a des aspects intéressants, mais tous ces trucs je les vois tous les jours. Bah, peut-être qu'un jour Twitter va disparaître et va te remplacer par d'autres trucs d'ailleurs. Est-ce que Twitter avait une modération avant moi ? Oui, mais qui n'était pas terrible, mais elle est encore pire, quoi, aujourd'hui. Encore moins. Alors, lisons maintenant ce qui se passe sur le plan économique pour Twitter, parce que du coup, ça ne va pas très très bien, parce qu'en fait, les annonceurs ne veulent pas mettre de thunes sur un réseau comme ça. C'est très surprenant, d'ailleurs. Maintenant, évidemment, c'est normal. Donc, économiquement, c'est un peu une catastrophe pour Musk. Dossier dans le Figaro, X, carrément, l'accident industriel d'Elon Musk, les annonceurs fuient le réseau social racheté 44 milliards de dollars il y a deux ans par l'homme d'affaires, craignant pour leur réputation, ce qui est vraiment surprenant. Ah, le fameux prix de la liberté d'expression, Yosette, merci beaucoup. Incroyable. Annonceur, dette, image, deux ans après son rachat, X est dans l'impasse. Bientôt, on va voir, on ne peut plus rien dire dans le chat, j'adore. C'est un anniversaire qui a un goût amer que s'apprête à célébrer X le mois prochain, le 27 octobre 2022. Elon Musk déboursait 44 milliards de dollars pour s'offrir sur le réseau social et essayer d'aider l'humanité, disait-il à l'époque. Deux ans plus tard, le serial entrepreneur peine à freiner la désaffection des annonceurs à l'égard de l'application, rebaptisée X en juillet 2023. Les marques craignent de voir leur image associée à celle de la plateforme, qui est par ailleurs suspendue depuis 10 jours au Brésil. Son quatrième marché pour cause de lutte jugée insuffisante contre la diffusion de la désinformation. C'est toujours la même chose, quoi. X, qui fête cette année ses 18 ans, est ainsi confronté à une crise de confiance sans précédent avec de graves répercussions sur sa santé économique. La publicité représente 90% des ressources de X. Or, cette manne s'est tarie. En septembre 2023, Musk annonçait lui-même que les revenus publicitaires de X avaient chuté de 60% sur le seul marché américain. La situation économique du réseau est moins grave cette année avec le retour d'annonceurs qui s'étaient prudemment retirés du réseau après son acquisition. Selon une étude Kantar située publiée début septembre, 26% des agences prévoient quand même de réduire leurs dépenses sur X en 2025. Les annonceurs craignent toujours que leur message se retrouve à côté d'une image dérangeante, violence, érotisme, d'un propos relayant de la désinformation ou relevant du harcèlement. Le paradoxe est que X reste malgré tout le réseau social de préférence des politiques français et du président lui-même, et que son audience en France n'a jamais été aussi importante, nuance le dirigeant d'un grand groupe de communication. Thierry Breton, le commissaire européen, qui est parti en lutte contre les plateformes qui ne luttent pas assez contre la désinformation. Où a-t-il posté sa lettre de démission de la Commission européenne sur Twitter, sur X? Là, c'est un sujet. Non, pas sur OnlyFans. Je ne suis pas à cette scène. Merci The Farren pour le soutien. Merci Fabien. Merci Noxil. Le seul truc sympa sur Twitter ces derniers temps, c'était des notes de communauté. Mais elles ne sont pas assez nombreuses. Et le travail génial de certains internautes sur les notes de communauté, il est réduit à quelques tweets, mais hélas, il n'arrive pas à endiguer l'énorme vague de désinformation qui, tous les matins, tous les jours, déferle sur ce réseau. Merci Henri pour le soutien. L'activité de la plateforme renaît ici et là l'occasion, par exemple, de grands événements sportifs. Parfois, X est un peu boosté par des grands événements comme l'Euro de football ou encore les Jeux de Paris 2024. Alors, au Brésil, il y a Twitter, X est même carrément suspendu. J'ai des conversations, ça c'est intéressant. Scientifique et historique passionnante sur Twitter, bien sûr, McGregor. Parce qu'il y a évidemment des gens intelligents et doués de bonnes intentions sur Twitter. Le problème, c'est que ce réseau qui pourrait être un outil incroyable d'information, d'échange, de liens, il est pollué, je pense, par une minorité de gens, mais qui sont extrêmement actifs, extrêmement bruyants et extrêmement cons, hein, un moment pour dire les choses, quoi. Ou qui ont des problèmes personnels et qui, à un moment, les résolvent de cette façon en s'exprimant à tort et à travers en permanence, persuadés en plus qu'ils ont raison, quoi. Petit package de gouttes, quoi. C'est pas une minorité? Si, je pense que si. Mais ils sont tellement bruyants. Si, je pense que si, je suis sûr que des chercheurs se sont penchés là-dessus, mais si on comptait le nombre d'émetteurs de messages problématiques sur Twitter, en nombre de citoyens, de personnes dans une société donnée, dans un pays comme la France, on se rendrait compte qu'ils sont extrêmement minoritaires. Mais ils ont que ça à foutre. Voilà. Et c'est tous les jours. Et c'est ça le problème. Si je prends mon petit exemple concret, parce que du coup c'est ce que je connais le mieux, des messages problématiques me concernant, j'en lis tous les jours. 5, 10, 15, 20, 100, parfois 300, 400 dans la même journée, quand la petite sauce du moment pour faire un petit peu du like, du retweet, quand ça gratte un petit peu, je réponds pas. Et la plupart des gens intelligents, ils répondent pas en fait, parce que c'est ça la bonne réponse. Parce que tu peux, parce qu'en fait, si tu réponds, ça redonne de la visibilité et c'est très compliqué. Et qu'est-ce qui se passe au bout de deux jours quand tu réponds pas? Quand effectivement les accusations sont infondées, hein, pas quand tu as un vrai problème et sur lequel tu veux pas te défendre. Dans ce cas-là, ça continue. Mais si tu ne réponds pas à une sauce là qui n'a pas de fondement réel sur un plan intellectuel pendant deux jours ou trois jours, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Parce qu'ils passent à autre chose. Ils vont chercher à gratter sur un autre truc. Voilà. Puis ils vont revenir 15 jours ou 6 mois après. Et puis ils t'attendent 2-3 jours. Si, bien sûr, les accusations ne sont pas fondées. Parce que si, les réseaux, ça sert aussi à dénoncer des vrais trucs. Et si à un moment, je me rends coupable d'un vrai truc problématique, bah, le truc ne va pas s'arrêter. Mais en vrai, quand tu es dans une sauce qui est infondée, et globalement que les gens intelligents et de bonne volonté, en grattant un peu, se rendent compte que le truc est infondé, le truc s'arrête. En 2-3 jours. Sans que tu réagisses. Sans que tu likes, sans que tu répondes, sans que tu cherches à te défendre, parce que ça sert à rien, en fait. C'est pire. Hein? Parce que ce sera jamais comme il faut. Donc voilà. Donc c'est fine, en vrai. Mais c'est un peu chiant, parce que c'est un truc qu'il faut apprendre à gérer, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a aussi l'idée que tes proches lisent tout ça. Ça, c'est le seul truc qui m'ennuie. Personnellement, qu'on raconte n'importe quoi sur moi, ce qui est le lot de toute personne un peu publique, je m'en fous. Ça va avec le métier, ça va avec... J'ai choisi de faire un métier public, ok, ça va avec. Bon. Tant que ces trucs ne sont pas modérés, je n'ai pas la main dessus, tant pis, ça va avec. Le jour où je veux plus de ça, j'arrête mon métier public et je fais autre chose. Les gens qui n'ont pas de métier public n'ont pas ce problème. Le problème, c'est que moi, je pense à mes proches qui lisent ces trucs-là. Et par exemple, mes enfants, quand ils seront en âge d'accéder aux réseaux sociaux, et moi, j'ai des petits un jour qui vont accéder à ces réseaux, sans doute, et ils vont lire toutes ces dingueries tous les jours. Ça m'ennuie. Parce que ça veut dire que éventuellement ils peuvent être peinés ou déstabilisés ou par ces trucs quoi. Et lire toutes les dingueries d'une violence parfois inouïe des gens derrière leur pseudonyme sur Twitter. Ça c'est ce truc qui m'ennuie. Voilà. Bon aujourd'hui ils sont petits, ils sont pas encore dessus heureusement. On revient au Brésil. Le site n'est pas accessible actuellement au Brésil. Depuis fin août et à la suite d'une décision judiciaire, les Brésiliens essayant d'accéder au réseau social X, anciennement Twitter, voit s'afficher un message d'erreur. Dans ce pays très connecté, la suspension du réseau a provoqué une onde de choc. Ceux qui utilisaient X pour échanger, débattre et s'informer décrivent une impression d'être plongés dans le noir. La suspension de X est intervenue après des mois de tension entre Musk, propriétaire milliardaire du réseau, et un juge de la Cour suprême qui s'appelle Alexandre de Moraes. Ce dernier mène une bataille musclée contre des comptes accusés de disséminer de fausses informations. Le juge a redoublé ses efforts après le saccage du Congrès, du palais présidentiel, de la Cour suprême, vous vous souvenez, à Brasilia, par des supporters de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. C'était le 8 janvier 2023. Le réseau a été pointé du doigt, accusé d'avoir contribué aux conditions de la violence. Hein. Rappelez-vous aussi ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Capitole. À partir du mois d'avril, Elon Musk s'est engagé dans un bras de fer personnel avec Moraes, le chargeant de censure, toujours la fameuse censure, d'être un dictateur et le comparant même à Voldemort, le méchant de Harry Potter. Le niveau des arguments est quand même assez... Voldemort. Alors qu'en plus, je crois qu'il ne faut pas prononcer son nom. Mais bon. Hey Julien, comment vas-tu ? Julien, il est là dans le chat et on déjeune ensemble tout à l'heure. Bah, et Julien qui vient de créer sa chaîne, notamment pour parler de désinformation sur Twitch. Voilà, on a mis la chaîne tout à l'heure, les modos vont nous le remettre, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Julien. Le retour de X au Brésil ne sera possible que si l'entreprise se met en condition de se conformer aux ordres des autorités brésiliennes, judiciaires et administratives. Les Brésiliens se sont rués du coup sur Blue Sky, alors moi je ne connais pas Blue Sky, co-créé en 2021 par le cofondateur de Twitter Jack Dorsey. Threads, la plateforme qui a été lancée... par Meta, a aussi bénéficié du vide laissé par la suspension de X, mais a priori, c'est plutôt Blue Sky qu'on a profité. C'est disponible en France, hein ? Avec 17 millions de followers, le YouTuber Felipe Neto avait une force de frappe conséquente sur X. Oui, c'est disponible ? C'est bien ou pas, Blue Sky ? Moi, j'ai créé un compte sur Threads à une époque, mais je ne suis pas sur Blue Sky. 12 millions de followers sur X. Même s'il estime que Threads et Blue Sky n'en sont qu'à leur début, ce critique acerbe de Bolsonaro ne regrette pas pour autant ce réseau. Ce qui me manque, c'est le Twitter d'avant Elon Musk, dit-il, avant que Musk le rachète. Felipe Neto n'est pas le seul à se plaindre de la transformation du réseau en 2022, notant une augmentation des bots, de cyberharcèlement. Si vous connaissez le Twitter d'avant 2022 et aujourd'hui, c'est quand même très clair. Felipe Neto n'est pas le seul à se plaindre, blablabla, ça je le dis. Pour Lévi, Keiko Ferreira, Blue Sky est une sorte d'oasis comparée à X. Cet ingénieur civil, également activiste contre le racisme, révèle avoir été addict à l'ancien Twitter, mais estime que Blue Sky a comblé le vide et que d'une manière beaucoup plus saine, parce que Blue Sky a des méthodes de modération qui découragent les attaques. Donc a priori, c'est possible. C'est bien Blue Sky ou pas trop ? Il y a déjà 10 millions d'utilisateurs, me dit Blue, sur Blue Sky. Quand il y a du monde, ça deviendra pareil. Ou pas, Adrianor ? Parce qu'on peut dire ça. Ah, en fait, c'est la masse qui fait qu'il y a des comportements problématiques et toxiques. Twitch, je sais pas, il y a du monde sur Twitch. Il y a beaucoup de monde sur Twitch. Vous êtes, si on prend toutes les chaînes en France, il y a des instruments de modération qui sont extrêmement puissants sur Twitch. Les modérateurs peuvent supprimer un commentaire, peuvent bannir provisoirement le viewer ou définitivement. On a des instruments de modération qui sont extrêmement puissants sur Twitch. JSCO, il dit Twitch est toxique aussi. Mais pas sur cette chaîne. Il n'y a pas de toxicité sur cette chaîne. Il y en a parfois une seconde, ça disparaît, ça revient pas, quoi. Voilà, comme le dit Étienne, on a des instruments, donc c'est possible. Le problème, c'est pas tant les utilisateurs que le fait de modérer les utilisateurs problématiques. Donc là on a un chat qui est apaisé, on a des gens qui sont pas d'accord entre eux, mais qui arrivent à en parler, quoi. Vous connaissez la philosophie de cette chaîne. Moi, toutes les opinions ici sont autorisées du moment qu'elles sont légales et sont correctement exprimées. On a mis ça en place il y a 4 ans, ça fonctionne. On n'est pas sûr, il n'y a rien de toxique ici. Donc on a des instruments de modération qui sont efficaces. Donc c'est possible. Le défécateur officiel qui connaît bien tous ces outils nous dit « Je trouve fou la qualité des échanges sur Twitch par rapport à ceux que j'ai avec ma commu YouTube ou sur Twitter. » Twitch est différent, chaque chaîne est modérée par une communauté restreinte. Je sais que c'est différent, mais du coup, on voit que c'est possible. Il n'y a pas que ta chaîne, il y a plein de streamers qui ne sont pas comme ça et se foutent de la modération. Ben, c'est leur problème. Je ne dis pas que Twitch est un meilleur univers, même si je le pense profondément, parce que justement, il y a des outils de modération qui sont plus puissants. Je dis qu'on a les moyens sur Twitch d'arriver à des espaces, de créer des espaces de création qui sont pas toxiques. Ce qui n'est pas pareil. Après, il faut que le streamer le souhaite. Bien sûr. Ouais, et GG au modo, du coup. Parce que c'est eux, leur temps, leur investissement, leur façon de soutenir la chaîne, puisque c'est ça, leur concentration, le fait de supporter de vivre dans ma cave, tout ça, qui permet que tout ça tienne debout. Leur mental pour tenir à lire beaucoup de bêtises aussi, dit Frambreuoise. Aussi, ouais. Aussi, ouais. Ben oui, mais j'ai le même problème que toi, Marchouf. Ce que je trouve chiant, c'est que Twitter, pour moi, c'est un outil d'information à la base. Et là, au secours, moi, le matin, je scrolle Twitter pour voir un peu les dernières infos. Et j'ai que de la merde, que de la merde, que de la merde. Les infos, elles sont perdues maintenant, quoi. Un vrai problème, quoi. Merci Only Zeus Can Judge Me, dont je parlais de toi tout à l'heure. Merci pour le soutien. Merci Zerg. Merci encore Henri. Ok. Bon, on va saluer dans un instant, on a parlé de l'arrivée de Julien Pin sur Twitch, l'arrivée du journal L'Humanité sur Twitch également, c'est une belle initiative, ça a l'air ok. On parlera des difficultés d'Ubisoft, le géant français du jeu vidéo, ça ne va pas bien Ubisoft, c'est très compliqué en ce moment. J'ai raté le nom de la chaîne de Julien Pin, je pense que tu tapes Julien Pin sur Twitch, tu l'as en 2 secondes, quoi. Voilà. Et on se penchera sur cette question un peu étonnante, est-ce que les insectes ne sont pas doués de conscience ? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à faire attention à la façon dont on traite les insectes ? Aux douleurs qu'on peut infliger aux insectes ? La prochaine fois que vous tuerez un moustique l'été prochain, parce qu'il veut votre peau, littéralement, eh bien, voilà, peut-être qu'il faudra peut-être réviser votre jugement et vous le laisser vous piquer, peut-être. Ouais. Non, aucune pitié. Légitime défense. Il faut le tuer d'un coup sec. Je ne tue plus les insectes, j'essaie de les faire sortir. Voilà. On s'en fout. On s'en fout de la conscience du moustique. Bam ! Lige dans le chat. Je vous adore. Bon. Ok, je vais me faire un petit café, un petit pipi. Dans une heure, je déjeune avec Julien. Il faut que je me presse. Je vous mets une petite pause musicale. Très rapide. Je vous remets le morceau qu'on a fait en intro tout à l'heure qui est cool en vrai. Toutes les blagues sur les moustiques à caractère sexuel, je dis non. Je dis, je répète, j'affirme haut et fort, toutes les blagues à caractère sexuel sur les moustiques à partir de maintenant, les modos, vous faites des petits théos provisoires, des petits bans provisoires. Je ne veux pas voir ça. Ça peut très vite déraper. Je dis non. Quoi. Attention à tous les mots que vous utilisez, soi-disant sous couvert de blagues, hein, notamment envers le sexe féminin, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est non, c'est nada, c'est niette, c'est low kick dans les genoux. Je vous pète la gueule, ok? Donc là, les modos sont prévenus pendant la petite pause musicale. Hein. Toutes les blagues bien pourries sur le sujet. Le petit théo provisoire et le ban def après. Ok? Est-ce que c'est clair? À tout de suite. Ta-da. Messages ce matin. Il y en a des messages cool ce matin. Sur les mails, sur les SMS, c'est fou ça. Ok. Allez, on y va. C'est bien, c'est aussi Penny Live. On écoutera la prochaine fois ça. Allez, merci, Vive the Globe. On écoutera ça la prochaine fois. Mesdames et messieurs, c'est fou, ce matin on a des mails sympas, des petits SMS sympas, ça taffe, je vous enlève ça, juste avant de... Salut les Rennais, salut les Bretons, je vous remercie Evie The Globe pour les 5 abonnements offerts à la commu, tu régales, merci The Globe, espèce de goutte. Attendez, avant d'enchaîner avec les insectes et Ubisoft et la chaîne Twitch de Luma, je voulais vous parler du prochain Time Out, là je mets collaboration commerciale, parce que ça... C'est une collaboration commerciale, puisque Time Out, c'est une émission qui coûte cher, qui est soutenue par TGV Inouï, d'ailleurs, pour les trois numéros. Le premier qu'on a fait la semaine dernière, là, qui a bien marché, c'était trop bien. On a bien rigolé avec la victoire d'Henri Tran face à Guile en finale. C'était l'équipe des streamers contre les viewers. Et donc, vous savez qu'on a relancé Time Out, qui a fait un numéro l'an dernier. Et ce grand jeu de culture générale et culture pop sur Twitch, on en a fait un numéro la semaine dernière, avec un petit coup de projecteur sur Montpellier, avec Guile de Montpellier et trois viewers, et ça pourrait être vous, de Montpellier, ok? Et on recommence, c'est reparti, avec en octobre et en novembre, deux autres émissions. C'est quoi le conseil de Time Out? C'est un jeu, Isara Kiri, c'est un jeu de culture générale, c'est un grand jeu, là on l'a fait avec six candidats comme un grand jeu télé, sauf que c'est mieux parce que c'est sur Twitch. Et là, on le refait en octobre et en novembre, cette fois avec un coup de projecteur sur Lyon et Marseille. À chaque fois, il y a trois streamers opposés à une équipe de trois viewers. Okay, donc c'est un jeu de culture générale avec deux équipes. Et il nous faut trois viewers de la région de Lyon et trois viewers de la région de Marseille, en espérant que le partenariat avec TGV Inouï nous emmène après vers d'autres villes. Lille, Nantes, Bordeaux, Brest, voilà. Ouais, etc. Bon, ça c'est dans mes rêves. Voilà. Annecy, bien sûr, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Arras, Poitiers, Grenoble, Toulouse. Oui, bien sûr, bah, j'adorais. Ouais. Voilà. Quiberon, Marie, mais oui. Ah, les Quiberon, c'est Quiberon, quel paradis. Quiberon, bien sûr, Rouen, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, eh bien, il nous faut encore trois viewers. Les inscriptions ne sont pas closes pour nos prochaines émissions, pour Lyon et pour Marseille. Hop, visuel, imagine l'informatique. Ça, c'est moi, ça se voit pas parce que c'est une photo. Non, ça c'est photoshopé à mort, ne croyez pas les photos. Hein. Ça c'est maquillé, photoshopé, voilà, c'est moi et c'est pas moi, tu vois. Non, on peut pas être mineur, il faut avoir 18 ans. Donc, Time Out, présenté par Samuel Etienne, le BG, comme tout le monde l'appelle, aura lieu avec la participation des viewers, c'est écrit en très gros pour ceux qui ne voient pas, pour présenter les villes de Lyon et Marseille, ok. Vous tapez point d'exclamation TGV, boum, qu'est-ce que vous avez si vous faites ça? J'enlève ce beau visuel avec cette belle personne. Si vous tapez point d'exclamation TGV dans le chat, il se passe quoi? Il se passe ça. Boum. Moi, je le fais parce que je suis rapide, parce que je suis un monstre d'informatique. Je l'épingle. Et vous cliquez. Et vous arrivez sur ça. Regarde. Putain, mais c'est vrai, je suis vraiment le spécialiste de l'informatique que je pense être. Voilà. Et vous arrivez sur un formulaire. Et si vous cliquez sur Marseille, par exemple, bah Montpellier, c'est trop tard, l'émission elle est passée, et bien vous avez le petit truc à remplir, le questionnaire, nom, prénom, voilà, ton âge, il faut avoir de 18 ans ou plus, être dans un rayon dans la ville ou dans un rayon de 30 km, ok. Et vous avez par exemple jusqu'au 24 octobre pour participer pour la ville de Marseille, et je crois que Lyon ce sera la première, et Lyon c'est un peu moins, et Lyon, il reste quelques jours, c'est jusqu'au 20 septembre. Donc il reste quelques jours, il vous reste 3 jours. Alors vous avez d'abord, vous inscrivez, et après il y a un questionnaire. Ne le faites pas maintenant, parce qu'après il y a un questionnaire. Après il y a un questionnaire, vous allez répondre à des questions avec un temps limité, ça va vous donner un score, et vous allez être notamment sélectionné en fonction de votre score. C'est comme ça que les viewers ont été très brillants. Soyons clairs les amis. Soyons clairs. Si vous êtes nul en culture générale, en culture pop, si vous êtes nul ou vous êtes un peu lent, ou les deux, nul et lent, ne trichez pas, n'allez pas sur un deuxième écran, un truc, ou avec un copain, chercher les bonnes réponses, parce que vous allez arriver en plateau dans pas longtemps avec moi, parce que vous allez être sectionné, parce que vous avez fait un score de GOAT, et vous allez arriver, et vous n'allez pas en trouver une, et vous allez être ridicule. Donc ne trichez pas, et si on est de Saint-Etienne, c'est mort, à 30 km, regarde, c'est la règle des 30 km. Voilà. Donc par exemple, nos trois viewers là, donc il y avait Alissa, il y avait Greg et il y avait beau gosse avec les cheveux là. Ah zut, avec que des beaux gosses. Alissa, Greg et le chat va me le donner. Et pas Gil, c'est Brice, je crois. Brice, vous l'avez? Ah yes, Brice. Ouf. Et Brice, bon bah ils étaient bons, ils étaient très bons. On sentait qu'ils pouvaient clutcher et gagner la game quoi. Et voilà, 63 km, ah, foutu. Et donc, du coup, bah, voilà, jouez le jeu. Mais si vous faites un bon score, je sais que certains, très nombreux, ont déjà participé ici. Si vous faites un bon score, bah, vous pouvez être potentiellement dans les trois Lyonnais, trois Marseillais qui vont pouvoir. Voilà. Et on va rigoler. Et en plus, je me déplacerai sur place pour vous rencontrer juste avant. Et on fera même un petit vidéo, un petit vlog. Et par exemple, là, je vais samedi à Lyon. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez être sélectionné assez vite puisque vous allez être sélectionné d'ici samedi. Et pour ceux qui seront disponibles, je vous rencontre à Lyon dimanche. C'est ce qui est prévu. Voilà, et après, je ferai ça à Marseille. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça, je me balade, c'est cool. Voilà. Il n'y a pas moyen de faire le questionnaire sans s'inscrire, ça m'intéresse. Si, bien sûr. Bien sûr que tu peux t'amuser à passer le questionnaire pour le plaisir. Tu vois, c'est plutôt pas mal, le questionnaire, il est assez cool en vrai. Quand on entend bon score, c'est quoi? Bah, ça dépend de votre niveau. En fait, il me faut trois bons. Donc si on a 600 personnes qui font 600 très bons scores, ben, on ira, tu vois, ça dépend, il n'y a pas de règle. 30 km à vol d'oiseau, ouais. Bien sûr, dans la Lyon, la grande ville, la ville du Grand Zaknani, bien sûr. Si je prends un hôtel à Lyon, j'habite à Lyon pendant quelques jours. Ben non, normalement non. Je pense qu'il y a vérif, après ça vérifie. Hein. Ça vérifie. Voilà. C'est la vérification est extrêmement, extrêmement sérieuse et rigoureuse. Et pour cause, nous avons confié, avec l'équipe de production, nous avons confié la mission de vérification de la réelle adresse des viewers participants aux équipes de modération d'Elon Musk. Donc tu imagines la grande rigueur que nous mettons là-dedans. Donc c'est vraiment vérifié avec beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur. Ouais. Voilà, je vous attends, hein. Dans les derniers streams, dans le chat, il y avait Brice, il y avait Greg, il y avait Alissa. Voilà. Donc là, parmi vous, là, vous êtes vachement nombreux en plus ce matin, il y a peut-être des gens que je vais croiser à IRL et vous allez vous rendre compte qu'en fait, je suis tout petit, je ressemble à rien, j'ai un humour catastrophique, enfin, la plupart du temps, vous le savez déjà, et que tous les présentateurs télé, j'ai un ego insupportable. Et tout ça, formidable, vous allez pouvoir le voir en direct. Incroyable. C'est une dinguerie. Pourquoi il y a Montpellier dans le choix? Alors, ok, il y a Bella là qui suit pas du tout, parce qu'en fait, l'émission de Montpellier, on l'a fait la semaine dernière. Non, en vrai, ça aurait pu être actualisé, ouais. Vous avez raison. C'est vrai. Et du coup, on fait comment, quoi? Comment de quoi? Pour faire le test sans s'inscrire? Bah, ah oui, bah tu t'inscris pour de faux. Putain, mais faut tout vous faire. Tu veux pas que je te vienne couper ta viande non plus ce midi? Midi 4, si t'habites pas trop loin, je prends un taxi, je viens de te couper la viande aussi. Tiens, une bouchée pour papa, une bouchée pour maman. Putain, sérieux, quoi? Tirez-vous les doigts du cul à un moment. Moi aussi, je t'aime, Annelse. Ah, putain, tu t'inscris pour de faux, quoi, let's go, tu mets l'adresse de ton cousin, je sais pas, moi, bordel. C'est dingue, ça. Mais pas que je passe l'aspi aussi. Bon, je vous dépêche sur ça. Je déjeune avec Julien, pas. Bon, ok, je vous attends. Bon, n'oubliez pas, Time Out, ça revient en octobre, en novembre. Vous avez MVP, mercredi à 12h. Et puis plein de choses. Voilà. Je ne veux pas vous faire le programme de la semaine, il est trop chargé en vrai. Voilà. Mais déjà, si vous venez mercredi à 12h, je serai content. N'oubliez pas, point d'exclamation MVP dans le chat, c'est demain, à 12h. Super émission sur l'emploi, sur tous les secteurs d'activité. T'es jeune, tu ne sais pas ce que tu veux faire à l'avenir, ou t'es moins jeune, mais t'es encore une belle personne, bien conservée comme moi, et t'as envie de te réorienter, t'es pas très dans ton travail. Hop, MVP. Tous les 15 jours, on explore un nouveau secteur, des nouveaux métiers, dans la bonne humeur, on est sur Twitch. Et là, la prochaine émission, c'est demain midi, c'est les conséquences de l'IA sur le monde de l'emploi. 3 chroniqueurs, 3 invités, super production, il y a des feux d'artifice, ça danse, il y a des fumigènes, à un moment, il y a un canard gonflable qui passe, c'est fou. On a des moyens de fou. Demain midi, je vous attends. Et si vous n'êtes pas là, je viens vous chercher IRL un par un. Voilà. Sam, tu te dépêches, Julien, déjà fin. Bah ça va, on a rendez-vous à 13h, ça va. Ça va. Ça va, mais j'ai pas fini là. Mais j'ai pas fini ma revue de presse, il est midi. Si on a déjà participé à Question pour un champion, on a le droit quand même, bien sûr, le Bayou. Attention, parce que si les candidats de Question pour un champion se mettent à jouer à Time Out, il va y avoir du niveau. Hein. Quel thème demain? Tu te fous de ma gueule, Mojek, je viens de le dire. Les conséquences de l'IA sur le monde du travail. Putain, mais... Il y en a, le steak frites, ils l'ont dans l'oreille en vrai. Hein. On parle de ça demain, puis il y a des chroniques, il y a des signes dingueries. Venez voir cette émission, vraiment, je suis super fier de ça. On a bossé un an. On a bossé un an pour développer MVP. Entre le moment où on a dit, tiens, on ferait bien une émission sur le monde du travail, de l'emploi, et le moment où on l'a lancé, un an de prépa, de réflexion, de trucs, et même eu un pilote avec les modos et tout, quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est cool, quoi. C'est noté, demain 12h, ok? Voilà, et je vous attends sur MVP aussi. Projet de fou sur cette chaîne. Pardon, tu disais, j'ai un steak frites dans l'oreille. Mais c'est ce que c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Certains ont littéralement des steak frites dans l'oreille. Ok. J'ai une choucroute dans le cerveau. Un an, une préparation aussi intensive qu'une montée de l'Everest. Oh, c'est pas possible. Toujours les polémiques. Toujours les polémiques. C'est dingue, ça. Hein. Allez, bravo à Julien Pain qui se lance sur Twitch. Bravo à France Télévisions, d'ailleurs, qui laisse de la liberté à ses animateurs, à ses journalistes, pour justement explorer les nouveaux outils, les nouvelles plateformes. GG France T, ok. Ça va sans dire, mais mieux encore en le disant, parce qu'il me laisse une vraie liberté depuis 4 ans sur Twitch. Je ne suis pas sûr que tous les employeurs feraient ça, que tous les groupes audiovisuels le feraient. Je suis même sûr du contraire, d'ailleurs. Donc, merci France Télévisions. Hop, ça ne mange pas de pain. En vrai, ils sont bien cool par rapport à ça. Et félicitations à l'Humanité qui se lance aussi sur Twitch. L'Humanité lance sa chaîne Twitch, débat en plateau, reportage en duplex, direct de l'Agora. C'était la fête de l'Humanité. Ça ne mange pas de pain. Ah oui, c'est pas fait exprès. Ah oui, GG France Télévisions qui laisse la liberté de Julien Pain de se lancer sur Twitch, ça ne mange pas de pain. Ça va là. France Télé et Goats. Ah ouais, puis en plus, ils ont acquis les droits de la Coupe de France de LOL, j'ai vu ça. Commenté notamment par Marie Palot. Hein, eh ouais, France Télé a acquis les droits de diffusion de la Coupe de France de LOL, je crois. Et c'est Marie Palot qui va être au cast, notamment. Vous n'avez pas vu ça?
J'ai vu ça sur les réseaux.
Pff, les Goats. Mais si. Vous n'avez pas vu?
Ah, si, c'est incroyable.
Ils sont top du top. Ben ouais, ah, vous saviez pas? Moi, j'ai pas vu beaucoup de communication encore. Et c'est incroyable, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Vous vous renseignerez.
Bon, vous irez vous renseigner, hein.
Je suis pas spécialiste de LOL, moi je comprends rien à ce jeu, c'est trop compliqué. Ah, Pépin Camille dit, si, j'ai vu. Voilà. Bon, allez, je reviens à l'Humanité, moi. Let's go. Alors, Théo Bourrieux était à la fête de l'UMA. Théo, c'est lui qui a animé ce live sur la chaîne Twitch. C'est lui. Tiens, vous savez quoi, on va aller tiens, je vais désimpégler ça et je vais aller on va épingler la chaîne de l'UMA. On va leur faire grimper leur nombre de followers. Ok, je l'ai là. Ok, il y a 4900 followers là. Et vous voulez pas suivre cette petite chaîne pour voir ce qui s'y passe? Je vous l'épingle. Boum, hé, ça clique là-haut, là, 4009. Je reviens dans 5 minutes, on va voir si on a fait monter un petit peu. Bon, après, l'Humanité, c'est un journal engagé. C'est un journal de gauche qui s'assume être de gauche, qui dit être de gauche, qui a longtemps été un partenaire de chemin de route du Parti communiste. Mais bon, que vous soyez sensible à ces idées-là ou pas, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que peut être un regard comme celui-ci sur l'actualité. Moi, c'est un journal que je lis de tous les jours depuis 30 ans, comme tous les autres journaux, et en vrai, c'est un journal que j'apprécie, quoi. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne et voir un petit peu ce qui s'y passe. Je vous ai épinglé le truc là-haut. C'est Théo, par exemple, qui animait ses streams à la fête de l'UMA, lui qui avait la lourde charge d'animer depuis vendredi un nouveau média, la chaîne Twitch de l'Humanité, 6 heures par jour. Théo est resté dans les arrières de l'Agora où il avait installé un studio pour accueillir les invités en plateau pour lancer les discussions avec les spectateurs qui commentaient en direct ce qui se passait à l'écran. Incroyable. Le chat. Théo n'était pas seul. Depuis le studio, il avait un comparse, Pierre-Antoine Valade, qui faisait des duplex dans les allées, les stands et de l'UMA. L'équipe comptait également les chefs d'orchestre, Raphaël à la réalisation, Mike et les équipes vidéo à la régie plateau, sans oublier Mathilde, Dianis, Aliénor, Fred, Marine. Je ne pense pas que ce soit Marine Le Pen, du coup, ce qu'on a fait de l'UMA soit une autre Marine. Qui en coulisses ont œuvré au découpage, au montage de sujets pour les partager sur les différents réseaux sociaux. C'est une sacrée équipe, hein. Ça rigole pas, hein. Toute une équipe donc pour lancer un nouveau projet, avec comme parrain Guillaume Meurice et ses invités. Guillaume Meurice, c'est l'ancien humoriste de France Inter, je crois. Ça s'est pas très bien passé, il est parti. Dont la carte blanche de vendredi soir était la première grosse émission streamée, diffusée en direct sur sa chaîne. Mais d'autres personnalités de cet univers numérique ou du monde sensible ont participé au lancement. Jean Massier, qu'on aime, qu'on adore ici, qu'on soutient, de Backseat, qui cette année encore a réalisé son émission en public depuis l'Agora de la fête. Des streamers et streameuses comme Host, comme Modi, le youtubeur Bolchegeek, les militantes du collectif féministe Furax ou celle de l'association Les Afro-Gameuses, qui est un super collectif. Avec cette chaîne Twitch, média qui privilégie le direct et l'interactivité, l'objectif est de continuer à développer notre présence, dit l'UMA, dans l'univers numérique, toucher un nouveau public, afin de lui proposer de découvrir notre journalisme, hein, c'est une découverte aussi, nos analyses et les événements du monde. Voilà, article de Stéphane Sahuc, qui est très bien fait. Alors, est-ce que vous m'avez boosté un petit peu les followers de la chaîne de l'UMA, là? 4 000, il y avait 4 900 tout à l'heure. 5000.
Ok.
GG. Allez, continuez, continuez. Allez voir, allez voir. Mon cerveau a bugué, j'ai compris Jean Messia et je t'ai vu applaudir, j'ai pas compris. Non, c'est Jean Massier, ouais. C'est Jean Massier qui est un excellent streamer spécialisé dans l'actualité politique. Oui, j'en doute, tout à fait. C'est vrai ce que tu dis, mais on s'en fiche, la vie privée des gens, ça ne regarde que... Je voulais un petit peu sur cette chaîne Twitch de Luma, c'est bien, non ? D'en penser quoi ? Merci Snellos, merci Silverquaid, merci à tous les deux. Merci The Voyageur pour les beats. Merci, merci. GG Luma. Ah, on me dit que la procédure visant la destitution d'Emmanuel Macron a été validée par le bureau de l'Assemblée et envoyée par la commission des lois. Ouais, vous prenez pas trop la tête avec ça, ça n'a aucune chance d'arriver à son terme. La procédure de destitution est prévue effectivement par la constitution de la 5e, mais les conditions encadrant cette procédure de destitution sont tellement strictes et demandent de tels niveaux de majorité à l'Assemblée comme au Sénat, notamment au Sénat, qu'il n'y a aucune chance politiquement que ça arrive. Donc voilà, vous pouvez vous intéresser à cette actu, mais ça ne peut pas arriver. Voilà, comme le résume des femmes, le Sénat est à droite, donc aucune chance, fin de l'histoire. Voilà. Donc c'est, à part si le gars tourne fin fou, parce qu'en fait la destitution c'est pour ça, hein, c'est pour destituer un président qui en gros a plus toute sa tête, ou, voilà. On est plutôt sur ce truc-là, vous prenez pas trop la tête avec cette info. C'est intéressant politiquement, parce que je crois que ça part de la gauche, que la gauche, qu'une partie de la gauche lance cette procédure de destitution, c'est un sens, c'est un message, c'est une communication. Mais ça, sur le papier, ça ne peut pas arriver à son terme, quoi. Ce qui va être mis en avant, c'est qui vote. Oui, ça va faire quelques articles, c'est sûr. Donc politiquement, ça ne peut pas passer, quoi. Après, la politique, parfois, on est surpris des choses qui se passent, hein, comme on a été surpris par la dissolution, par exemple. La vraie question, c'est quand Inox Tag chez Samuel pour une interview. Il est déjà venu deux fois sur cette chaîne, Inox. Je vais arrêter de le chose à foutre que vient sur ma chaîne. Inox, il vient quand il veut, Inox. Alors, je vais voir la chaîne de Luma, qui avait 4900 followers tout à l'heure et qu'on a 5000. Oh les gars, faites-moi un 5,1 au moins, quoi. Hein ? Allez, rapidement. Ouais, dans un quart d'heure, je vous abandonne. J'accélère un petit peu parce qu'avant mon déjeuner, il faut que je réponde à un ou deux mails. Merci Galinette, c'est trop gentil. Merci Snellos pour le prime. Ubisoft, ça va pas. Page dans les échos sur le jeu vidéo à la française, et notamment sur le géant français du jeu vidéo Ubisoft. Les Bretons à l'origine. Hein. Lancement raté, plongeon boursier, la série noire d'Ubisoft. Moi, j'ai un ami très proche. Salut Benjos, merci pour le troisième mois, c'est adorable. Qui connaît bien Ubisoft pour collaborer avec eux, qui n'est pas un salarié d'Ubisoft, mais qui en a affaire avec eux, qui me dit, ouais, c'est très compliqué, la série noire d'Ubisoft, c'est dans les échos ce matin, la capitalisation boursière du champion français du secteur est au plus bas depuis 10 ans, l'accueil réservé à l'un de ses blockbusters de la rentrée, Star Wars Outlaws, inquiète les marchés financiers et certains actionnaires. Il casera la Bretagne à chaque stream, c'est pas possible. Oui, I'm fast, c'est ce que je fais. Le rendez-vous était important pour les gamers, il y a des guillemets, pour les gamers. Mignon. Comme pour les investisseurs, en cette rentrée, Ubisoft a lancé deux gros jeux à gros budget, avec des enjeux lourds pour ses finances comme pour sa réputation, écorné par plusieurs ratés. Le champion français s'est pris les pieds dans le tapis avec le premier Star Wars Outlaws. Lancé fin août, le titre s'était pourtant vu décerner une note honorable 76 sur 100 par la critique sur le site de référence Metacritic, mais nombreux joueurs ont rapidement et publiquement fait part de leur déception concernant ce tout premier jeu Star Wars en monde ouvert. Certains ont joué ou pas ? Au Star Wars Outlaws, là. Tiens, regarde, il y a Lolokun qui dit « C'est dommage pour Ubisoft, je ne suis pas spécialement fan de leur jeu, mais qu'est-ce que je m'éclate sur Star Wars Outlaws malgré tous ces bugs, soucis de gameplay ?» Ouais, j'aime bien. J'ai tapé une douzaine d'heures dedans. Ça ne m'a pas tenté trop générique. Ouais, c'est cool, un bon jeu. Ah, il y a de bons retours, hein ? On attend une baisse de prix. J'ai adoré, mais ultra fan de Star Wars. Les images sont top, j'hésite à l'acheter. Non vu en stream et pas en vie. Non grand fan de Star Wars, mais j'ai pas acheté. Jeu classique, il me prend au carré, c'est juste cool. Je l'aime, il est pas génial. J'ai terminé ce jeu, me dit Erwan C. Il révolutionne pas le genre, mais l'univers est parfaitement respecté, l'immersion est folle. Donc, plutôt un bon moment. Ça a l'air ok en vrai. Mais il est un peu buggé, quoi. Voilà. Comment ? Il y a Runcy qui dit Ubisoft fait juste des open world sans saveur en fait. C'est pas mauvais en soi, mais ça a été fait 10 000 fois et ça sert plus à rien, quoi. Voilà. Lucas me dit en fait le problème c'est ça. Le jeu est ok, c'est pas un banger, quoi. Ok. Conséquence, l'action a dévissé, c'est énorme, hein, de 34% suite à ce lancement raté, faisant plonger la capitalisation boursière de l'entreprise à moins de 1,5 milliard d'euros, qui est son plus bas historique depuis 10 ans. C'est une rentrée chaotique pour Ubisoft. La sortie de Star Wars Outlaws est clairement poussive. Son jeu de tir à la première personne, X-Défiante, j'avais vu des gens jouer à ça à un moment, est en train d'agoniser après un bon démarrage. X-Défiante, vous en pensez quoi ? Expose un analyste du jeu vidéo qui s'appelle Charles-Louis Planade. X-Défiante, j'avais vu des streamers jouer à ça. Moi, j'ai pas essayé, moi. C'est une forme de capitulation du marché à l'égard du titre. Le groupe n'est plus perçu comme jouant dans la même catégorie qu'Activision ou Electronic Arts, prévient cet expert. Pas fou. Fan de FPS, pas fou, pas ouf, éclaté au sol. X-Défiante déjà oublié. Trop dur. Flop. Waouh. C'était bien, mais vite essoufflé. Waouh. Le problème pour X-Defiant, c'est que Valo est arrivé sur console. Ils ont loupé le coche, pas bon. Bon, mais ils ont foiré la monétisation. Rien donne envie d'acheter. Aïe. X-Defiant n'est pas mauvais, honnêtement, dit Aurel. Dommage qu'il soit... Aurel ? Le Aurel que je connais ? C'est toi, Aurel ? Parce que j'ai jamais fait attention... Je sais pas, je connais un Aurel que j'aime bien. X-Defiant, je comprends pas pourquoi ça marche pas, c'est un retour FPS de base, bon c'est partagé, ok. Le jeu est pas si grave, quoi. Non, c'est pas toi, c'est un autre Aurel, ok. Ok. J'étais à deux doigts de te passer VIP en vrai. Les bonnes nouvelles se font rares pour Ubisoft. Cet été, le groupe a annoncé que ses jeux Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence ne sortiraient finalement pas lors de son exercice fiscal 2024-2025, qu'on reporte des projets. Ubisoft, c'est une très grosse machine, 20 000 salariés, c'est énorme, hein. Quasiment autant que la petite entreprise ici, hein, mais bon. Mais son problème majeur, c'est qu'elle ne dispose pas dans son catalogue de jeux d'une machine à cash du niveau de GTA, Call of Duty, ou EA Sports, l'ancien FIFA, explique un observateur. Il n'y a pas la machine à cash derrière qui fait de la trésor, quoi. L'expert, là, Charles-Louis Planade, voit quand même des motifs d'espoir. Parce que moi, j'aime bien essayer de voir s'il n'y a pas du positif qui arrive. Avec la sortie le 15 novembre d'un nouveau volet d'Assassin's Creed, la licence phare du groupe, c'est une industrie où vous pouvez vite passer de tout à rien inversement, plusieurs fois déjà dans l'histoire, rappelle-t-il. Un Assassin's Creed a tiré Ubisoft d'un mauvais pas. Voilà. Donc, il y a le 38e du nom, non ? Pour 38 quand même. Voilà, on espère le meilleur pour cette AC, écrit le gros là-haut dans le chat. Voilà. Prévu pour le 15 novembre, Assassin's Creed Shadow sera le jeu le plus ambitieux de l'histoire du groupe en matière de budget de développement. Ubisoft ne peut plus se permettre de décevoir, sous peine d'accélérer encore son déclassement. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a un enjeu pour le prochain Assassin's Creed, là. Salut le gisant. Merci pour ton message sur l'Huma. Il va être retardé, je pense. S'il flop, c'est finito. Les images du jeu sont déjà très critiquées. Ça va sûrement être un flop. Attendons le jeu. PLT Pouette. Je viens d'arriver. C'est silencieux, dis donc. C'est-à-dire, c'est silencieux. Tu veux quoi ? Tu veux que je fasse l'homme orchestre ? Tu veux que je fasse des faux bruits de paix avec ma bouche ? Comme tu t'appelles PLT Pouette, tu veux que je fasse Pouette Pouette ? C'est pas le plus grand cabaret du monde ici. Hein. Attends, je vais pas me mettre. Tu vois. Hein. C'est fou ça. C'est dingue ça. Viens sur Valo quand je rage si tu veux du bruit. Hein. Ah, enfin, tout ça, je peux. Tu vois. Là, on est cool, on est. Tu vois. Tu veux juste une petite danse des canards? Une petite danse des canards? Attendons ce jeu, si ça se trouve, on va tous dire dans quelques semaines, waouh, quel banger, Assassin's Creed, c'est incroyable, on verra. Sinon, je voulais votre avis sur un truc, les Échos parlent aussi de la rentrée contrastée des éditeurs français, et parlent d'autres studios, donc d'éditeurs français, Pull Up Entertainment, c'est de l'ancien Focus, qui signe un des cartons de la rentrée, je voulais votre avis là-dessus, parce que moi je suis toujours à la charge de jeu, moi. Warhammer 40 000, Space Marine 2. C'est bien ça ou pas? Est-ce que vous me le conseillez? Parce que là, il paraît que c'est un succès. Oui, banger, incroyable entre potes, c'est cool. Ah ouais? Ça parle de quoi? Giga? Giga chat, c'est quoi? Ça se passe dans l'eau, ouais, Space Marine? Je suis dessus actuellement, me dit ArwenC, mais tu te fais que jouer, toi. Turbo banger, ça va te plaire? Ah ouais? Attends. Alpha Cast l'a saigné. C'est une super porte d'entrée, ce magnifique univers de SF qui est Warhammer 40 000. Ah ouais? C'est le 40e 1000 jeux, il faut rattraper les 39 999 d'avant. J'ai pas le temps. Ah, c'est dans l'espace? C'est bien. Invite Pressea pour que tu expliques le lore. Ah, hein. Mais c'est bien. Vous voulez que je le fasse dans Time Out? Vous voulez que j'invite Pressea? Sam. Je m'envoie un message à moi-même. Pressea. Comment s'appelle ce film, ce truc-là? Warhammer. Space Marine 2. Je lui envoie un texte. Hey, Pressea, le jeu sur la mer, là, avec les dauphins, là. C'est bien? Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Ou Alpha, alors? Ou Alpha aussi. Ou Alpha. Enfin, c'est bien. Moi, j'essaie d'inviter le maximum de streameuses. Alpha Cast. Ah, les peintures de figurines que fait Alpha, c'est un lien avec ça? Alpha, chaque fois, il me parle de ses peintures-là. À chaque fois, ça me démonte. J'adore. Je l'imagine, là, avec ses tout petits pinceaux. C'est trop chou. Ah, Warhammer, en fait, c'est Warhammer. Ah, c'est Rammer comme de l'aviron. Ah oui, donc c'est vraiment un truc sur la mer, alors. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est bien, ça. Ok. Bon, bah, ok, on a une piste. Ah, et je vous ai pas dit, au fait, qui était notre premier invité de Time Out dimanche à 20h. Saison 2 de... Oh, pas de Time Out, de Samplay. Putain, je fais trop de trucs. Saison 2 de Samplay. Mon émission que j'ai lancée l'an dernier, du dimanche soir à 20h, histoire de combattre le blues du dimanche soir. Vous savez, le dimanche soir, vous dites, ah, le week-end est terminé. C'est pas grave, il y a Samplay. Let's go, on va voir Samplay, son invité, pour découvrir un jeu vidéo. Et l'invité, il vient avec son jeu vidéo préféré ou l'un de ses jeux vidéo préférés. Comme ça, moi, je découvre des jeux et c'est incroyable. Retour de Samplay, saison 2, dimanche à 20h. Je vous ai dit qui c'était ou pas l'invité? Attends, si ça se trouve, on m'a envoyé le visuel ce matin. Attendez, si j'ai le visuel, je vous le montre en avant-première internationale. Attendez, c'est pas sûr. Non, je l'ai pas. Vous avez pas de chance. Ah cool, il y a un poste. Ok. Donc je regarde, mais a priori, donc il n'y a pas de... Ouais, donc j'ai pas encore le visuel. Par contre, j'ai un truc, attends. Par contre, j'avais pas vu, mais il y a le tweet pour MVP demain. Toc. Hop, qui a été fait ce matin, je pense. 11h27. Ça, c'est l'émission de demain. 12h. Oh, les beaux gosses. Je peux vous donner les infos, du coup. C'est vrai que j'ai pas trop... Regardez ça. Demain. Donc, MVP, l'émission sur le monde du travail, de l'emploi, de l'orientation et tout. Let's go. Donc, à chaque fois, il y a 3 chroniqueurs. Il y a 3 invités. Et donc, parmi les chroniqueurs, demain, il y a Defund Intelligence, hein, qu'on avait reçu sur l'IA dans l'hebdo Étienne, hein, qui, je crois, habite Marseille. Voilà, qu'on aime bien. Il y a Pépin, voilà, que vous connaissez bien aussi. Et Ludovic B, qui est lui chroniqueur permanent, parce que c'est un YouTuber incroyable et qui justement se penche sur les métiers depuis des années déjà. Il a une chaîne YouTube consacrée à l'exploration des métiers. Et Ludovic, c'est vraiment, ça va être le pilier de l'émission. Et les autres chroniqueurs, ils vont tourner. Voilà. Et donc, il y a Defund Intelligence qui sera là demain, qui est un spécialiste de l'IA. Et il y a Pépin aussi qui va notamment dans sa chronique nous parler de l'IA et de ses conséquences sur les métiers artistiques, notamment le dessin, etc. Voilà. Et en grand invité, parce qu'en fait à la fin de MVP, il y a un grand invité, une grande interview à la fin où on prend le temps, 20 minutes, une demi-heure, d'échanger avec l'invité sur sa carrière, son œuvre, où il va, etc. On a reçu Enjoy Phoenix pour la première il y a 15 jours. Et donc c'est Clément Viktorovitch, que j'aime beaucoup, hein, le politologue, qui est très présent sur Twitch, vous le savez, et qui juste même s'est retiré un peu des médias traditionnels pour passer plus de temps sur Twitch, qui était mon voisin d'ailleurs au The Event, le pauvre, il m'entendait beugler non-stop. Mille balles ! Il n'en pouvait plus. Et donc Clément sera là pour le grand. Et puis il y a deux autres invités, mais on ne peut pas tout vous dire. Rendez-vous à midi. Voilà. L'IA BFF ou ennemi ? C'est quoi BFF ? Déjà, c'est peste. C'est pas un truc cochon, ça ? C'est pas un truc cochon, BFF ? Ah, Best Friend Forever ! Ah, c'est cool. Ah, j'ai eu peur. Ah, ok, j'ai eu peur que ce soit un truc un peu... J'ai eu peur. Ok. Non, j'ai eu peur, en vrai. Je trouvais ça bizarre aussi que les équipes soient parties en mode... Je devais penser à un autre acronyme, mais je sais pas lequel. J'ai eu peur. Voilà. Clément, bah ouais, super. Belle émission en vrai. Hein. Donc ça, c'est demain midi, demain 12h. Merci le Gisant. Merci pour ton message tout à l'heure. Merci pour tout ça. Merci Mathéus 9, comment vas-tu ? Merci pour le 27e mois. 27 mois de soutien quand même. Hein. Non, pas BFM, Moulbit. Non, eh oh. BFF, Benjos et Snellos. Encore merci. Voilà. Bon. Mais attendez. Mais qui est ce... Qui est cet homme au regard perçant, au teint lumineux, à l'implantation de cheveux incroyablement ordonnés ? Ces petites lèvres pincées, là, un peu coquines. Ah bah c'est moi. Pardon, excusez-moi. Merci Dub Dub Toinou. Merci pour le 5e mois. J'avais pas fait attention. Avec une démarche féline. Rendez-vous demain à 12h. Du coup, l'invité de Simplesse, c'est qui ? Je vous le dis pas parce que j'ai pas le visuel encore. Voilà. Si je l'avais reçu, je vous l'aurais montré. Voilà. Donc, on se retrouve demain matin, 9h30 pour une revue de presse. Ensuite, on enchaînera avec cette émission. Donc, ça fait genre 3h plus 3h. On est des foufous parce qu'on aime ça. On est sur Twitch. On est tellement foufous qu'on déjeune avec un autre streamer ce midi. Je serai donc obligé de manger un steak frites puisque des points de chaîne ont été dépensés. Alors, steak qui peut être éventuellement végétal et frites qui peuvent être aussi pas forcément de pommes de terre. Et c'est avec Julien Pain. Tout à l'heure, je vous invite à suivre sa chaîne, Julien, le journaliste de France Info qui vient de créer sa chaîne sur Twitch. Voilà. Je vous abandonne maintenant parce que du coup, je vais pouvoir répondre à un petit mail ou deux avant d'y aller dans les urgences. Retweeter d'ailleurs le petit tweet sur MVP. Et puis, on va voir qui est en live là. Je vois des propales qui me plaisent bien là. Attends, je vois une propale qui me semble évidente pour le raid. Ouais, effectivement, j'étais au courant. Ok, je sais où je vais. Je sais où je vais. Et vous savez aussi où je vais. C'est où le raid déjà ? C'est là. Bien sûr qu'on sait où on va. Bien sûr, il y a Marie Palo, qui d'ailleurs était dans le premier numéro d'MVP il y a 15 jours. Pourquoi je trouve pas sa chaîne ? Qui est en live. Ah oui, c'est Marie C. Palo, parce qu'il y a un Marie. Voilà. Voilà, qui est en live là, Marie, qui est en live avec Joe, justement, Molotov Awards. Voilà. Trop bien. Bon, voilà. Eh ben, on va voir Marie sur sa chaîne et ils sont tous les deux. Voilà. Il y a 111 viewers et vous allez mettre un petit peu de force dans tout ça. OK ? Merci les amis. Allons soutenir Marie Lagotte et Joe Le Goat qui lui-même nous arrête tout à l'heure. Waouh ! Inception. On se retrouve demain matin pour la revue de presse. Demain midi pour MVP à 12h. Du coup, cet après-midi, je vais bosser sur MVP entre deux rendez-vous. Donc, je ne vais pas streamer cet après-midi. Et normalement, ce soir, si je suis raisonnable, comme je me lève très tôt pour la revue de presse, il n'y aura pas de stream gaming non plus. Je pense que ça va être chaud, quoi. OK ? On va voir. Avec moi, on ne sait jamais. Merci pour l'énergie que vous donnez. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. À ce soir, à demain, on ne sait pas trop. À très vite. Mais j'ai pas fait le raid. C'est parti. Go ! À plus. Dans le bus. Cinq, quatre, trois, deux, un, let's go.
Mission, je pense que la toi d'aujourd'hui pète un câble.
Bah franchement c'était cool hein.
Bah je crois pas que tu puisses. En vrai.
Attends, c'était
non,
cool.
Incroyable, let's go. Oh,
oh mon dieu.
J'ai obligé. Ah, il faut faire. Attends, il faut faire une miniature comme ça.
Bienvenue. Bienvenue, merci Samuel pour le raid. J'avais un message dans le chat qui disait attention le raid.
J'ai possible, dit, possible.
Merci beaucoup.